Au dernier épisode, nous avons diffusé une partie de la discussion que nous avons eue avec Juliette, une Lausannoise de 18 ans qui vient de terminer le gymnase, qui fait du violon et qui aime écrire. Juliette a partagé son récit concernant un jeune homme qui s'est inséré dans sa vie quand elle avait encore 14 ans. Elle a raconté à quel point cette relation d'une année lui a été délétère et que quelques temps après sa fin, elle a réalisé qu'elle a été victime de viols récurrents. À la suite de ces événements et de cette réalisation, Juliette s'est retrouvée dans un processus thérapeutique et de reconstruction de vie important. Dans une certaine mesure, ce processus a été lié aussi à des questionnements sur l'état des lieux des procédures judiciaires suisses et sur notre société qui semble ne pas être construite pour la protéger. Ce genre de situation est plus fréquent que ce qu'on aimerait croire, et afin de tenter de mieux comprendre, nous nous sommes approchés d'une avocate et d'une pédopsychiatre, dont les contributions seront diffusées dans cet épisode. Ensuite, Juliette va nous dire ce qu'elle en a pensé, et nous fera part de son expérience avec la culture du viol et les injonctions contradictoires qui pèsent sur sa génération. Je profite de ce message pour remercier Juliette pour son considérable effort et courage, ainsi que les deux expertes, Maître Laurence Veillat-Kunz et la docteure Alessandra Duc-Maroud, pour leur temps et engagement offert au podcast. En vous souhaitant une bonne écoute, nous allons d'abord à la rencontre de Laurence. Salut Laurence.
Hello Lirza.
Tu es ce soir ici notre invitée experte juridique. Tu es avocate au barreau. Avant ça, tu as étudié le droit et les sciences criminelles à l'Université de Lausanne. Puis tu as travaillé comme greffière au ministère public. Le ministère public, c'est l'autorité de poursuite pénale qui instruit les cas d'infraction, mais on va plus en parler après. Donc actuellement, tu es associée à l'étude Fabreau & Partners.
Exactement.
Quand on s'est eu au téléphone il y a quelques semaines, tu m'as beaucoup parlé en fait que l'étude où tu travailles n'a pas de couleur politique et toi, tu te définis pas comme une avocate ayant une posture activiste, en fait.
Exactement.
Est-ce que tu veux un petit peu peut-être élaborer là-dessus ?
La remarque, je pense qu'elle est importante pour la suite, dans le sens où moi, je vais essayer de répondre aux questions de manière la plus informative possible, sans forcément plaider un courant ou un autre, ou une position de victime ou une position de prévenue. Voilà, l'idée, c'est que j'apporte des éléments qu'on puisse utiliser en tant que tel et qui ne revêtent pas une couleur particulière.
La raison pour laquelle on voulait vraiment avoir une experte juridique au podcast pour cet épisode, c'est que notre invitée Juliette, que nous apprécions particulièrement, elle est venue nous raconter son histoire. Elle raconte que quand elle était mineure, elle avait 14 ans et ensuite 15 ans, elle a eu, entre gros guillemets, une relation avec un homme qui avait un décalage d'âge avec elle qui dépassait les 3 ans, en fait. Elle sortait avec cet homme, elle avait 14 ans, lui, il avait 17, ensuite elle en avait 15 et lui, il avait 18. Juliette, elle s'est rendue compte que ce qu'elle a vécu avec cet homme, c'était en fait des viols répétés, perpétués par lui. Et elle dit qu'à un moment donné, elle est allée se renseigner auprès d'une association avec une avocate, juste avoir un peu quelques informations, puis cette avocate-là l'a conseillé de ne pas porter plainte parce que la procédure serait beaucoup trop difficile à vivre pour elle, serait beaucoup trop confrontante, pour au mieux un résultat de quelques jours amende obtenu pour le prévenu. On était assez étonnés d'entendre ça parce qu'on entend plein de choses sur des procès de viol qui se passent pas exactement comme on voudrait en tant que femme, en fait, mais je pensais quand même que quand il s'agissait de personnes mineures, que la loi était un peu plus solide que ça. Enfin, moi, j'étais un peu choquée. Donc, on t'a invité aujourd'hui pour te demander comment ça se fait qu'on en soit là où une femme de 18 ans aujourd'hui se rend compte qu'elle a subi des viols quand elle avait 14 ans, qu'on lui donne un tel conseil en fait. Nous, on aimerait analyser cette situation, quel est l'état des lieux de la loi et pourquoi est-ce que ce genre de conseil juridique est devenu une espèce de vérité dans la culture populaire en fait.
Alors, si on prend les choses depuis le début, s'agissant des lois de répression pénale, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'on a un code pénal qui est constitué un peu en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une première partie qu'on appelle générale qui va un peu examiner diverses conditions de répression, diverses manières dont on va fixer les peines, etc. Et puis après, on a une deuxième partie qu'on appelle la partie spéciale, qui contient un catalogue d'infractions. Et puis, en droit suisse, on a un catalogue assez étayé, dans le sens où on a beaucoup de libellés d'infractions différents selon les actes commis et selon les personnes sur lesquelles ces actes sont commis. Donc, on parle toujours du viol parce que c'est le plus impressionnant, rien que le mot claque un peu, est très violent. Mais ce qu'il faut bien comprendre en Suisse, c'est que tout ça s'inscrit dans un aspect de contrainte, d'atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel. Et puis dans ce sens, le législateur a décidé de faire donc plusieurs catégories, dans le sens où il réprime des actes d'ordre sexuel qui peuvent être commis sur des personnes dépendantes, sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, sur des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues. Il réprime la contrainte sexuelle dans son absolu, le cas spécial où c'est perpétué sur une femme, qui est le viol particulièrement. Donc le viol peut, en l'état de la législation, d'ailleurs ça va changer, on en reparlera après, mais n'être commis que sur une femme. Après, il y a encore beaucoup d'autres infractions où on s'éloigne un peu, mais il y a l'exhibitionnisme, tout ce qui a trait à l'encouragement à la prostitution, à la pornographie. Donc voilà, c'est assez large.
Donc la deuxième partie du code pénal, c'est une espèce de liste qui décrit les types d'infractions et qui ensuite donne des peines correspondantes.
Exactement. Donc il y a une peine minimale et une peine maximale qui est attribuée à chaque type d'infraction particulier, étant précisé que ça se cumule assez vite. Déjà, l'exemple un peu, fellation, acte d'ordre sexuel, pénétration, pénis dans vagin, viol. Il y a déjà deux chefs d'accusation. Ce caractère détaillé d'infraction permet de composer vraiment l'accusation en fonction des états de fait qui sont chaque fois différents les uns des autres.
Le truc qui choque un peu dans la loi suisse, c'est justement la définition du viol, la pénétration d'un vagin par un pénis.
Alors en l'état, ouais. Mais c'est vrai que ce mot de viol, il est quelque part assez emblématique. Il y a souvent ce débat qui ressort où les gens disent « mais j'étais victime de viol » et puis le juriste dit « non, oulala, mais ça c'est pas du viol ma chère, c'est de la contrainte sexuelle
ouais. ».
C'est vraiment des termes, mais ça peut être très mal interprété. Si vous lisez le 20 minutes, le violeur n'est pas un violeur.
Ça a un impact culturel en
fait.
Du coup,
ça a un problème. Ouais. C'est le premier jalon des problèmes de communication qu'il peut y avoir, notamment entre la presse et puis les justiciables. Ouais. Parce qu'on s'insurge tout de suite, mais comment ça ? Bien sûr que c'était un viol, elle a été violée. En réalité, c'était une sodomie, c'est de la contrainte sexuelle. Au niveau des peines, ça n'a rien changé.
Mais au niveau des peines, ça ne change rien.
Le juge, en l'état de la législation, peut attribuer la même peine.
Okay.
Le plancher est un peu plus bas pour la contrainte.
Et c'est vraiment pas le sujet là aujourd'hui, mais c'est vrai que je voulais juste qu'on touche un mot sur cette définition du viol en Suisse.
Ouais, c'est important.
Si on fait une gradation par gravité, est-ce que le viol est considéré comme très grave dans le code pénal suisse ?
C'est quand même dans la fourchette haute. Un peu pour illustrer, ce qui est réprimé par des infractions plus graves, c'est notamment l'assassinat, les cas aggravés de prise d'otage, le génocide, les actes inhumains et les crimes de guerre. Ça, c'est vraiment le haut du panier. Après, dans des infractions qui sont réprimées par les mêmes quotités de peine, le même genre de peine et les mêmes quotités de peine, le viol, il s'inscrit dans tout ce qui est relatif au meurtre passionnel, aux lésions corporelles graves, donc ça peut être une tétraplégie, une paraplégie, etc., à la mutilation d'organes génitaux féminins, qui ont un chef d'inculpation spécial en droit suisse, au brigandage, donc des vols avec une extrême violence, prise d'otage par exemple, ou grosse lésion corporelle, à l'encouragement de la prostitution, à la mise en danger de la population par des organismes génétiquement modifiés, et puis c'est aussi du même ordre que tout ce qui est infraction relative aux organisations criminelles et terroristes. Donc en dessous, on a par exemple les agressions, où plusieurs personnes agressent une personne qui, jusqu'à ce qu'elle décède par exemple, ou qu'elle soit gravement blessée. Plus bas, se trouve aussi le séquestre et l'enlèvement.
J'aurais genre 20 questions à poser juste par rapport à ce que tu as répondu, mais je crois qu'on va essayer vraiment de se contenir.
Une précision peut-être. Avec les peines pénales, on pense tout le temps à la prison, notamment, peines pécuniaires, etc. Il y a encore 2-3 choses auxquelles il faut penser.
Oui.
Tout d'abord, les concours qui sont des cas où les peines se cumulent, comme on en a parlé avant, donc ça prend vite l'ascenseur. Donc vous avez une peine maximale pour le viol en tant que tel, mais qui peut être cumulée après selon les autres infractions qui sont réalisées par le même événement. Ça peut être une minute qui vous réalise... des actes d'ordre sexuel sur une personne dépendante, des contraintes sexuelles et un viol. Pas en une minute, quoi. Et puis après, il y a aussi tous les corollaires qui sont, par exemple, l'expulsion. Si vous êtes étranger.
Donc ça existe en Suisse, l'expulsion.
Ça a été voté tout récemment. C'est un grand débat aussi. Mais effectivement, le viol, il est dans la liste d'infractions qui doivent mener le juge normalement à prononcer de manière obligatoire, donc sans qu'il puisse estimer si c'est adéquat ou non, une expulsion.
Ah, wow.
Et puis après, il y a aussi des interdictions, par exemple, d'exercer certaines activités. Donc suivant quoi, la personne coupable, elle ne pourra plus exercer son métier si elle est, par exemple... enseignante, avec des enfants, avec des jeunes, si c'est en lien avec une personne de cette catégorie de personnes.
Ouais.
Il y a des interdictions de contact géographique, vous pouvez vous faire rayer d'un quartier, quoi. Voilà, la peine, c'est une chose, et puis après, il y a toutes ces mesures qui sont quand même fortement impactantes, quoi.
Est-ce qu'on peut aller, s'il te plaît, sur une notion qu'on entend encore une fois beaucoup dans la culture populaire, dans les médias, dans la presse, c'est la fameuse notion de la présomption d'innocence. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe, quel est son but et comment c'est utilisé ?
Donc cette présomption d'innocence, elle nous vient de plus haut qu'au niveau suisse. Ça vient de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte ONU. Donc c'est des éléments internationaux qu'on a ensuite évidemment retracés et adaptés à notre sauce en droit suisse. Donc dans la Constitution, autant que dans les lois de procédure civile, pénale, etc. Cette présomption d'innocence, elle s'inscrit dans le droit à un procès équitable, qui donne du coup concrètement des garanties de procédure. Par exemple, le droit de consulter son dossier, le droit d'avoir un avocat, le droit d'être jugé par un tribunal impartial. impartial. D'après ce principe, toute personne est présumée innocente tant qu'il n'est pas condamné par un jugement qui peut plus être contesté.
Moi, si je explique ça un peu avec mes propres mots, tu me dis si j'ai bien compris. Juste parce que tu as été accusé de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Tu es présumé innocent ou innocente jusqu'à ce qu'on prouve que tu as été coupable, en fait. Mais jusqu'à la fin du procès, tu es considéré innocent ou innocente.
Exactement. C'est pour ça qu'on utilise le terme de prévenu pour décrire la partie prévenue et pas le coupable ou le...
Et l'accusé non plus,
en fait. Ni accusé, accusé, c'est déjà assez...
C'est fort, ouais.
Parce qu'on estime que la personne qui fait l'objet de l'enquête pénale, c'est seulement à partir du moment où elle pourra plus contester son jugement, où elle sera allée au bout de ses voies de droit, comme on les appelle.
Ouais.
C'est seulement là où on pourra dire, bon, voilà, on a la vérité judiciaire fait qu'on peut la qualifier à présent de coupable et qu'on considère qu'elle est coupable d'infraction.
En fait, je tenais vraiment à parler de la présomption d'innocence parce que je trouve que c'est un terme qui, à la base, est un terme juridique, mais qui est utilisé de manière abusive dans la culture populaire, dans la presse, dans tout ce que tu veux, qui fondamentalement est utilisé pour dire aux femmes, bon, tu dis que tel et tel homme t'a violé, mais tu vois, présomption d'innocence, du coup je peux pas te croire. Et je trouve que c'est une utilisation abusive en fait. Et récurrente.
Alors c'est clair que l'idée c'est d'imposer une certaine prudence avant d'être arrivé à une certitude, disons. Maintenant, la présomption d'innocence, elle est aussi importante au niveau de la manière dont est conduite le procès et particulièrement dont sont appréciées les preuves. C'est-à-dire qu'elle implique que le tribunal apprécie librement les preuves selon son intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Évidemment, c'est une question compliquée, ça suppose que les magistrats aient déjà des prédispositions requises, et voilà, une considération pleine et entière de toutes les circonstances des faits, le moindre détail est vraiment important.
Ouais.
Alors ça, c'est dans le cadre de l'appréciation des preuves, et puis dans le cadre du verdict, la loi dit clairement, c'est seulement lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation que le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Doutes insurmontables, la jurisprudence parle de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire qu'il s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective. C'est pas « je n'ai pas voulu le condamner parce qu'il m'a finalement...
Oui, »
Ça m'arrangeait pas trop.
Oui.
C'est des notions qui sont beaucoup développées parce que c'est clair que c'est des notions abstraites. On dit ça comme ça, ben voilà, il faut pas qu'il y ait de doute irréductible. Ok, merci. Où est le curseur? Comment on considère
ça? Non, mais ça, c'est une grosse question.
Voilà. On considère qu'il y a toujours des doutes qui sont abstraits et théoriques et puis qu'une certitude absolue ne peut pas être exigée.
Oui.
Parce que sinon, c'est terminé. C'est même pas la peine. On arrête.
Bien sûr.
C'est dans ce cadre-là que le juge doit appliquer cette présomption.
Si on s'approche un petit peu plus de notre invitée Juliette, en fait, on imagine donc une jeune femme qui réalise, parce que la question de la mémoire traumatique, c'est tout un sujet à part, mais elle réalise un jour, elle se rend compte qu'elle a été violée quand elle était encore mineure et elle décide de porter plainte. Imaginons ce cas de figure. Elle va porter plainte, elle va d'abord être accueillie par la police. Il y a tout un sujet par rapport aux audiences et comment elle va être interrogée, mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Suite à la réception de la plainte, c'est le ministère public qui est représenté par ses procureurs, c'est ça?
Oui.
C'est elle et eux qui vont décider s'il y aura poursuite, en fait. Sur la base de quoi est-ce qu'on décide s'il y aura poursuite ou pas?
Alors, le code de procédure pénale impose que lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, on commence à investiguer. Donc, là aussi, notion assez large, soupçons et présomptions, quoi.
Donc, donc c'est assez bas comme barre.
C'est assez bas, c'est de l'appréciation d'un procureur. Maintenant, avec des infractions comme celle qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, les procureurs, ils se soucient de ce qui s'est passé, quoi.
Okay.
C'est quand même, on va pas juste se dire, ouais, déjà à ce stade, je me dis que je suis pas très convaincue. Enfin, il y a rapidement une enquête qui est ouverte, quand même.
Ouais, tu penses?
Je pense, ouais. Ça n'engage que moi.
Ouais.
Mais il faut se mettre à la place d'un procureur qui reçoit un dossier comme ça. Et est-ce qu'il va vraiment se dire, bah, je présume que c'est pas arrivé? Ils ont très, très peu d'éléments à ce stade, hein.
La barre est relativement basse,
oui.
En tout cas sur papier, pour qu'il y ait poursuite. Maintenant, comment est-ce qu'on prouve un viol?
On peut prouver un fait par toute preuve qui est disponible tant qu'elle n'a pas été recueillie de manière illicite. Mais dans ce cadre qui est du coup assez large, on va prendre en compte tous les éléments de preuve qui sont disponibles. Il y aura effectivement les auditions que tu as évoquées, étant précisé qu'il y a des mesures de protection spéciales pour les victimes de telles infractions. Ça, c'est prévu par le code. On pourra prendre en compte des témoins. Par témoin, ça peut être le type qui a croisé la nana dans la rue alors qu'elle sortait de là, blême. Mmh. Ça peut être la meilleure amie à qui la victime s'est confiée. On accueille un peu tout le monde pourvu que ça paraisse pertinent comme témoignage. Après, il y a des expertises, très important, donc l'expertise médicale, qu'elle soit purement physiologique ou psychologique, tout est extrêmement important. À partir du moment où il y a un expert, il a quand même un vrai crédit, on va l'entendre. Il y a les pièces à conviction. Si on a pu réagir vite, par le biais de perquisitions, de fouilles, etc., ça c'est surtout pertinent s'il y a des éléments
C'est quoi ça ?
C'est peut-être plus pertinent au niveau pornographie, etc., où on va chercher dans un ordinateur, voir s'il y a des films, des enregistrements quels qu'ils soient, des photos, des choses comme ça. Après, il y a évidemment tout ce qui est analyse ADN, si on a pu recueillir un échantillon.
Mais ça, c'est si la victime a pu réagir tout de suite après
le
viol.
Ouais, c'est le drame, ouais. Bon, après, ça s'inscrit aussi s'il y a un soupçon de drogue.
Si je prends, encore une fois, le cas de notre invitée, je veux pas parler pour elle, je suis un peu mal à l'aise, mais genre, elle a réalisé ce qui lui est arrivé quand même quelques années après. Dans ce cas précis, ce qu'elle aurait comme preuve possible à donner, ce serait des témoignages, des experts ou expertes de santé mentale, en fait.
Son audition va être déterminante. Après, il y a tout le feeling des procureurs par rapport à sa crédibilité, la cohérence du discours.
C'est quoi la crédibilité d'une victime ? Parce qu'on en parle beaucoup, ça, victime crédible, ouais, victime pas crédible.
C'est très, très difficile. Il faut juste pas oublier que c'est des gens, c'est le métier, quoi.
Ouais, mais bon...
À ce stade, ils aimeraient vraiment savoir ce qui se passe. Ils veulent pas dire « moi, je veux foutre ce type en tôle » ou « moi, je veux discréditer cette victime ». Ils instruisent vraiment parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé.
Je comprends, tu dis « voilà, c'est des gens, c'est leur métier ». Mais en fait, avant qu'ils aient un métier, c'est des gens.
C'est des personnes, ouais.
C'est des personnes. En fait, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on vit dans une société patriarcale. On vit dans une société sexiste, ça, c'est un peu un fait. Par définition, on va moins croire les femmes. On va moins croire les femmes et on va quand même protéger les hommes, en général. Quand une victime... femme qui accuse un homme de viol, les procureurs qu'elle a en face ou les gens qui accueillent en fait son audition qu'elle a en face, c'est des gens qui font partie de la société. Et moi, je crains que par définition, la barre pour qu'elle soit crédible va être quand même assez haute.
Raison pour laquelle, enfin, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais l'idéal, c'est d'avoir un défenseur qui du coup fait valoir le point de vue de chacun, hein, que ce soit autant du prévenu que la victime, mais qui va dire au procureur, non mais attendez, vous devez prendre en considération le fait que, il y a cet élément-là, il doit pas être ignoré, etc. Ouais. Et puis après, le procureur, bah, il sait qu'il y a un contrôle, enfin je dis le procureur, mais le juge aussi, parce qu'il y a plusieurs instances. Tout ça va faire l'objet de voies de droit, il y aura donc un contrôle, il y a le procureur, mais après il y a le juge de première instance, il peut y avoir le juge de deuxième et de troisième instance. Voilà, c'est des gens, effectivement, je dis dont c'est le métier, parce qu'ils savent que leur travail est contrôlé à cet égard.
Oui, mais il est contrôlé par qui ?
Il est contrôlé justement par les instances supérieures.
Mais qui sont aussi des gens.
Ouais, aussi des gens, mais ça commence à faire beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'objectivation, et puis vous n'avez pas envie d'être le procureur ou le juge qui est connu pour tout le temps se faire casser ses ordonnances ou ses jugements.
Il y a tous ces mécanismes, enfin, tu dis très bien, il y a plein de garde-fous en fait, il faut aller jusqu'au bout, mais les deux peuvent aller jusqu'au bout, l'homme qui est accusé aussi, enfin on prend le cas d'une femme et d'un homme là, et moi quand tu me parles du doute...
Le doute irréductible simplement.
Le doute irréductible exactement, je me dis ben voilà, dans le cas de notre invitée, elle pourrait monter un dossier, peut-être sans parler de Juliette, parlons juste d'un cas en fait, tu montes un dossier... T'as vraiment l'expertise psychologique. Il y a tout, en fait. Il y a vraiment tout. Est-ce que tu peux parler qu'il n'y a pas de doute irréductible ? Finalement, ça s'interprète beaucoup, non ? Le curseur où tu le places, tu peux dire, bon, elle va mal psychologiquement, mais peut-être c'est dû à autre chose. Ses parents se sont séparés il y a un an, j'en sais rien, en fait. Elle fait de l'anorexie, mais tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, elles font toutes de l'anorexie. J'ai l'impression que le doute irréductible, là, on peut vite jouer avec le mot.
Les outils qu'on a à cet égard, hormis les défenses respectives, c'est toute la manière dont on cadre ce doute par des exigences qui sont posées par la jurisprudence, parce qu'effectivement t'as une loi qui peut pas prévoir x cas, etc. Du coup c'est très important que la jurisprudence soit prise en considération, donc c'est des jugements qui étayent qu'est-ce que c'est qu'un doute en réalité. Dans ce cas-là, les éléments objectifs c'est ça, les éléments où on a peut-être un peu plus de doute, on peut pas trop, on sait pas trop, c'est cela. Comment est-ce qu'on applique la balance? Après il y a la doctrine qui est rendue, c'est-à-dire les gens du métier qui écrivent des articles, les jugements rendus ils sont toujours examinés, hein. Vous rendez comme magistrat un jugement, vous savez qu'il va être lu aussi par beaucoup d'avocats, par des associations, etc. Vous pouvez pas dire n'importe quoi. Celui qui décide qu'il doute doit vraiment expliquer pourquoi. Et puis, c'est pas qu'il doit juste expliquer que ça lui chantait ce jour-là de douter. Il doit dire les éléments, c'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est là-dessus que je me fonde pour considérer que... Après, il y a aussi le fait que cet élément-là est en faveur des déclarations. Mais ça suffit pas parce qu'il y a trop d'éléments où ça tient pas. C'est très documenté comme doute. C'est pas juste
Mais encore une fois, moi, ma crainte, c'est qu'on vit tellement dans une société qui a banalisé, en fait, la question du consentement et les viols commis par des hommes sur des femmes, que les garde-fous fonctionnent peu. Et c'est là que je vois rentrer en jeu le rôle, en fait, d'avocats et avocates qui auront des postures activistes. Parce qu'ils vont aller, comme tu dis, aller lire toutes les décisions et dire non, mais là, vous abusez, là, c'est des biais personnels, là, c'est des biais sexistes. Là,
exactement,
c'est des biais,
ouais, exactement.
Mais du coup, c'est un travail activiste important.
C'est un travail important parce qu'effectivement, on doit vraiment mettre en lumière les éléments du dossier, ouais, qui vont dans le sens de la partie, ouais, qu'on défend, quoi. Et effectivement, là, plus toutes les sciences avancent, je veux dire, par exemple, cet élément de tétanie qu'on a commencé à reconnaître. Ouais. Enfin, voilà, c'est super important que les avocats, ils invoquent,
oui,
ce genre d'éléments.
Parce,
quoi,
que, pour faire la parenthèse, donc, on connaît la contrainte physique dans la loi du viol, mais en fait, tous les psychothérapeutes vont te dire qu'en cas d'agression, tu peux avoir une réaction de sidération où tu te bats pas, en fait. Et c'est une action de autodéfense du corps. Tu vas te dissocier parce que ton cerveau se protège. Et aussi, des fois, le corps peut avoir une réponse sexuelle pour se protéger, en fait, et éviter les lésions. Une femme qui va mouiller ou un homme qui aura une érection n'est pas signe de consentement.
Totalement,
mais c'est,
ouais,
ton corps qui réagit pour,
mais il faut le savoir, mais il faut le savoir.
Il faut savoir, il faut que la loi le reflète, en fait.
Alors la loi, c'est l'idéal. Une fois qu'on en est arrivé, oui, à ce que ce soit codifié, fantastique, ouais, là, on est safe, ouais, on a optimisé. Avant ça, effectivement, ça sera à l'avocat de dire attention, il y a des études scientifiques qui sortent, regardez ce qui se passe, ouais, on a un éclairage scientifique qui confirme notre version des faits, on ne peut pas l'ignorer, etc. Ouais. Les procureurs et magistrats, ils sont souvent assez proactifs. Il y a beaucoup de conférences, de formations, on se tient beaucoup au courant, etc. Donc c'est clair que dans l'idéal, eux-mêmes ont déjà pris ces informations-là et puis les considèrent. Le droit pénal, c'est un droit où le juge peut prendre en considération beaucoup de choses, disons.
Ouais, d'accord.
C'est pas un procès où on réclame juste de l'argent, où on est très limité parce qu'on, ouais, demande les parties. Le juge, il va pas hésiter à demander des expertises auprès de professionnels.
Ouais, ouais, je comprends. Donc si je reviens à notre cher invité qui nous honore avec sa présence, on revient un peu sur la loi sur mineurs. Parce que dans son cas, elle n'aurait pas de preuves de contraintes physiques, parce que ça a été une contrainte psychique, ce qu'elle a vécu. Il n'y aura pas de preuves prélèvement ADN, parce que c'est plus tard qu'elle aurait voulu ou qu'elle s'est renseignée pour porter plainte. Donc, elle aurait eu un dossier type, tu m'as parlé une fois du faisceau d'indice concordant.
Exactement, ouais. Yes.
Elle aurait, ouais, elle aurait genre de l'expertise psychologique, les témoignages, voilà. Maintenant, sachant qu'elle était mineure, sachant qu'elle avait plus que 3 ans de différence avec son entre guillemets ex. Et sachant que le gars en plus pendant une longue période était majeur, est-ce que c'est pas le cas que par définition, tout ce qu'elle doit montrer, c'est qu'ils ont couché ensemble? Parce que par définition, c'est un viol, non?
Effectivement, c'est là où est pertinent l'âge des personnes impliquées, parce que l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants a un petit palliatif qui est, en gros, on s'est dit, bon, tous ceux qui ont moins de 16 ans, on part du principe que c'est mauvais pour leur développement d'avoir quoi que ce soit à voir avec la sexualité. On part du principe que la loi doit les rendre abstinents. Et puis là, il y a eu un petit palliatif parce qu'on s'est dit, le but, c'est quand même de les protéger, pas de leur mettre des culottes de chasteté. Et du coup, on a protégé les amours juvéniles par une disposition qui dit qu'en gros, l'acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans. Okay. Ça, c'est la protection des amours juvéniles.
Tu peux avoir 14 ans, avoir un mec qui a 16 ans et demi,
ouais,
et puis c'est pas condamné par la loi.
Non.
Et puis vous avez des rapports sexuels.
Oui, bah, la loi dit simplement, celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, il sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.
Voilà.
Effectivement, ça va vite, quoi.
Donc au niveau de la loi, ça va vite.
Il y a encore un petit palliatif si l'auteur a admis par erreur que la victime était âgée de 16 ans au moins, alors qu'il a usé de toutes les précautions qu'on pouvait attendre de lui, il reste punissable.
Il reste punissable, mais c'est une circonstance atténuante.
Exactement,
voilà.
Ouais.
Ok, mais ici, dans notre cas, c'est pas le cas, parce qu'ils étaient à l'école, ils savaient l'âge qu'elle avait, enfin... Donc dans ce cas précis, finalement, par définition, il y a eu viol.
Alors il y a eu acte d'ordre sexuel.
Mais il y a eu pénétration d'un vagin par un pénis.
Alors...
Tu vois, mais ce que je veux dire, moi, de manière abstraite, en fait, est-ce que, au niveau de la loi, par définition, c'est un viol?
Alors, c'est un acte d'ordre sexuel avec des enfants, il n'y a même pas besoin que ce soit un viol.
Ah
en
oui, il n'y a même pas besoin.
Il
n'y
a
fait.
Même pas besoin. On est au degré acte d'ordre sexuel, quoi.
Ok.
Ça va vite, quoi. Là où ces infractions de viol commises sur personnes de plus de 16 ans, etc., en gros, c'est voué à protéger l'autodétermination sexuelle. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, c'est voué à protéger la jeunesse, quoi. Et ouais. le développement des jeunes.
Du coup, dans le cas de notre invité, le but, c'est pas de critiquer une autre avocate qui a donné un conseil ou autre. Ouais. Le but, c'est juste de décortiquer un peu une situation parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas avocate, mais je vois que dans la culture populaire, il y a beaucoup ce truc de ça sert à rien de porter plainte, ça va être trop dur et tu vas pas obtenir grand chose. Donc dans le cas où la loi, ça va très vite, elle était mineure, le gars avait plus que 3 ans qu'elle, elle aurait vraiment des preuves à montrer au niveau de l'expertise médicale par rapport à son état psychologique, des témoignages, tout ça. Comment ça se fait qu'une avocate lui dit, en fait, ça sert à rien, laisse tomber.
Il y a un impact qui est quand même assez fort de la procédure en tant que telle sur la victime. Est-ce qu'elle a peut-être voulu la protéger de ça ? Voilà, c'est clair que c'est des situations qui sont très inhabituelles, où vous devez expliquer à 3-4 personnes derrière un ordinateur qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment vous a enlevé vos sous-vêtements, est-ce qu'il y a eu éjaculation, est-ce qu'il y a eu préservatif ? Voilà, c'est clair que c'est assez violent de parler de ce genre de choses. Est-ce qu'elle a voulu l'aviser de cette exposition ? Maintenant, je sais pas dans quelle mesure elle a peut-être voulu la rendre attentive au fait que la peine pourrait être faible, puisque l'infraction, elle peut être réprimée par des jours amende seulement. Et puis ça, c'est clair que ça paraît un peu abstrait pour une personne victime, quoi.
Est-ce que vraiment la peine peut être si faible dans un cas comme ça ?
Les actes d'ordre sexuel avec des enfants peuvent être punis d'une peine pécuniaire, oui.
Mais vraiment.
Encore une fois...
C'est violent, non ? C'est violent en tant que société, en tant que femme et en tant que personne mineure de se dire, en fait, on peut m'infliger plein de choses et la loi... n'est pas là pour moi, en fait.
Non, alors, comme ça, surtout appliqué au cas d'espèce, ça paraît violent, effectivement. Vu qu'on est vite dans cette infraction, je veux dire, le moindre, ce qu'on appelle touche-pipi et compagnie, le moindre attouchement, tout ce qui conforte une personne à un acte qui fait que l'autre ressent de la satisfaction sexuelle, on est dans les actes d'ordre sexuel. Mmh. Donc, effectivement, ça peut aller vite, raison pour laquelle j'imagine que le législateur a voulu garder ce palliatif en disant, bon, on punit, mais peut-être à un degré moindre qu'une peine privative de liberté.
Ouais, mais...
Mais c'est clair, c'est
là,
clair.
On a un cas de viol sur mineur, et en fait, le conseil juridique, et il y aura un max de quelques jours amende. Voilà. Ma question pour toi, c'est... Je te demande pas un avis juridique sur le cas de Juliette, parce que t'es pas son avocate. Donc vraiment, c'est, si on parle de manière un petit peu générale, est-ce qu'on en est vraiment là, en fait ?
Alors, dans le cas de Juliette, du coup, je réponds à l'inverse de la question, mais il y aura aussi le cumul avec le viol. Du coup, on oublie la peine pécuniaire. Là, à nouveau, on voit comment on peut utiliser les outils pour arriver à nos fins, quelque part. C'est que si on a juste un cas de touche-pipi entre gens qui ont... Toute petite différence, 3 ans et demi, etc. Bon, on considère qu'il y a moyen de punir l'auteur de manière un peu pas modérée, mais voilà. Ouais. En revanche, dans le cas de Juliette, si un viol est effectivement réalisé, bah là, bim, on a un cumul d'infractions qui fait que la peine pécuniaire, elle est plus trop possible.
Donc toi, tu penses que dans un cas comme ça, on peut quand même prétendre à plus que quelques jours amende.
Bah, effectivement, si on arrive à établir les faits, et effectivement, il y a quand même de bonnes chances pour que cette personne soit crue, on a quand même espoir qu'il y ait une vraie répression. Il faudra que les actes qui ont été commis par le prévenu quand il était mineur soit considéré sous l'angle du droit pénal des mineurs aussi.
Donc ça, c'est un palliatif pour lui ?
C'est un palliatif pour lui, mais c'est plutôt au niveau des sanctions et puis des prescriptions.
Ok.
Ça n'enlève pas la gravité des actes.
Parce qu'il était mineur pendant une petite partie de la relation.
Voilà, exactement.
Parce qu'après, plus tard, il avait 18 ans. Ça peut baisser sa peine. Parce qu'une fois, tu m'avais parlé aussi de certains éléments qui peuvent faire que ta peine, elle baisse. Donc t'as un maximum de 10 ans,
ouais.
Disons, et t'as plusieurs circonstances possibles qui font que ta peine va baisser.
Alors t'as un maximum de 10 ans pour le viol seul. Suffit d'ajouter une fellation et compagnie, et puis là on est déjà dans le cas des concours où on a vite des cumuls de peine. Après, encore une fois, rappelons les mesures d'expulsion, etc., ou voire même les mesures thérapeutiques en tant que telles, si on estime qu'il y a quand même des troubles, enfin qui doivent être traités en plus de la peine. Je veux dire, là les gens peuvent être jusqu'à internés, c'est pas vraiment selon leurs actes mais selon leur état médical.
Ok.
Et c'est encore un autre volet, quoi.
Ouais.
Ça donne encore une autre dimension.
Mais dans des cas comme ça, qu'est-ce qui peut être palliatif pour le prévenu? Donc il y a le fait qu'il était pendant une petite partie mineur.
En gros, la fixation de la peine, elle porte que sur la culpabilité du prévenu. Hormis son âge qui va être considéré sous l'angle du droit pénal des mineurs qui a plus de vocation d'éducation du prévenu, même de le protéger un petit peu parce qu'on va beaucoup examiner son cercle familial, relationnel et compagnie, ce qui peut même mener à des placements. Là, après, il y a un régime transitoire pour les anciens mineurs, quelque part, qui va être aussi pertinent où on va naviguer entre le code pénal des adultes et le droit pénal des mineurs.
Ça, ce serait le cas, je pense, ici.
Du coup, assez important aussi de prendre cet aspect en considération. Et puis après, on va considérer les circonstances atténuantes qui sont applicables aux adultes. Ça peut être une action dans une détresse profonde, agir sous l'effet d'une menace grave, sous l'ascendant d'une personne à qui il devait obéissance et dont il dépendait.
Okay.
S'il a été, là aussi, oulala, gros débat, induit en tentation grave par la conduite de la victime. Alors là, ça ouvre un spectre, ça peut être atroce.
Ouais.
Ça peut être atroce.
Bah ça, c'est le ding 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 pour tous les hommes, en fait. C'est ça que je vais utiliser. Pardon, c'est incroyable, c'est le mythe de la tentatrice qui est dans la loi.
Ouais, mais encore une fois, là, c'est atroce parce qu'on en parle dans ce contexte de viol.
Oui, bien sûr.
Il faut vraiment l'imaginer pour tout et n'importe quoi, pour n'importe quel type
d'infraction. T'es sous emprise pour un vol.
T'es sous emprise, ça peut être juste une histoire de sous, d'atteinte à des intérêts patrimoniaux, etc.
Ouais.
Là, vraiment, à manier dans des infractions relatives à la liberté sexuelle, ça devient.
C'est
la planche est tellement glissante, personne n'a envie de parler de ça.
Chute libre. Ouais. Mais c'est un dispositif qui existe.
Exactement. Après, ce qui peut être pertinent pour des infractions à caractère sexuel, c'est le repentir sincère. Encore une fois, ça suppose que la personne, le prévenu, il soit au clair hein, sur la nature des actes qu'il a commis. C'est déjà la première étape. Hein. Repentir sincère, parce que sur le principe, mon avocat m'a dit que ça allait faire baisser ma peine, ça passe normalement pas inaperçu, parce qu'un juge, il va beaucoup creuser. Il va vraiment essayer d'établir l'état d'esprit.
Mais est-ce qu'il a les capacités, un juge, pour faire ça ?
Non, mais il va peut-être demander à un expert. Mais c'est clair que je vois mal un jugement qui dit à la fin, bon, on doit quand même bien admettre qu'il est désolé, et puis voilà. Ça devra être très étayé, très documenté. Et puis c'est plutôt des choses où, comme avocat, vous préparez ça, bah voilà, vous savez qu'il va falloir être solide.
Mais ça fait quoi ? Ça atténue ta peine, ça l'enlève pas.
Ça atténue la peine, ouais. Après, il y a aussi l'intérêt à punir qui aurait diminué en raison du temps écoulé. L'auteur n'a pas réitéré des faits pareils. Maintenant, ça, c'est quand même compensé par le fait que tout ce qui porte sur la prescription de l'action pénale, donc l'écoulement du temps à partir duquel la personne est plus punissable, il y a des dispositions spéciales pour les infractions à caractère sexuel qui rendent certaines infractions imprescriptibles.
En fait, ça me tue tout ce que tu dis, parce que moi, je connais des cas. Tout ce que tu dis, toutes les circonstances atténuantes, bah, c'était l'inverse. Genre, on a découvert que la personne a commis d'autres actes depuis l'événement pour lequel il est prévenu. Il y a genre tous les témoignages possibles, il y a le faisceau concordant d'indices, il y a tous les témoignages possibles contre cette personne qui sortent même au-delà des attentes de la plaignante. Et on dit quand même doute irréductible, pas atteint. Voilà, moi je te parle en tant que citoyenne libre et responsable, je suis pas du tout dans le droit. C'est l'impression que j'ai, quoi.
Ouais, c'est toujours difficile d'objectiver des cas. C'est difficile, quoi, d'objectiver ces éléments qui sont rapportés, c'est compliqué.
Enfin, moi, comme ça, de loin, je trouve que c'est moins compliqué que ce qu'on dit. Et l'état des lieux est quand même assez triste. Il y a des statistiques en Suisse. 12% des femmes auraient subi un rapport sexuel contre leur volonté dans la population. 7% des femmes ont été contraintes par la force. Maintenant, la moitié de ces victimes n'en parlent jamais à personne, en fait, et il n'y a que 8% des victimes, mais c'est rien, qui portent plainte. Et en fait, quand elles ont été questionnées ensuite pourquoi vous ne portez pas plainte, ça casse vraiment le cœur. Première raison qui est donnée, c'est par honte. Donc ça
ouais,
donne déjà
atroce. Ouais.
Ça donne l'état des lieux sociétal.
Et ça, c'est propre à ces infractions-là.
Donc elles se disent, si j'ai subi ça, c'est que c'est quelque part de ma faute. Ou alors si elles se disent pas ça, c'est qu'elles se disent, mais c'est que ça m'a quelque part sali, je suis polluée.
Ouais.
La deuxième raison, tout de suite serrée avec par honte, c'est que ce serait vain.
Ouais,
et ça montre la méfiance. Ouais. Ensuite, il y a la peur qu'on me croit pas. Ça aussi, c'est affreux. Mm-hmm. Ça va dans le même sens, en fait. Après, il y a situation de une plainte aurait empiré ma situation, donc ça c'est des situations personnelles qui peuvent
ouais,
déraper.
C'est pas anodin. Ouais.
Et ensuite, ça aussi, ça me casse encore plus le cœur, c'est que pas sûr d'avoir le droit de le faire. Donc
ouais,
les femmes ont intériorisé
ouais.
que c'est peut-être pas une infraction, c'est peut-être pas un truc, c'est pas une agression. La loi, en fait, n'est pas là pour moi. Je suis même pas sûre que j'ai le droit de porter plainte parce que j'ai été violée, quoi. Ou que j'ai subi une agression sexuelle.
Voilà, ça pour ça, il y a un rôle éducatif de tout le monde.
De tout le monde.
Ouais.
Hein,
parce
absolument.
Que c'est comme le viol conjugal, quoi.
Oui,
je pense qu'il y a pas mal de femmes qui savent pas que ça existe.
Exactement.
Qu'on peut pas violer pour son mari, et puis c'est faux, bien sûr.
Exact. Et la dernière chose, c'est aucune confiance dans la police.
Ouais.
Et c'est assez triste, en fait, l'état
des
lieux.
C'est assez triste. Après, ce serait intéressant d'avoir cette stat pour toute infraction, en fait. Parce que typiquement, bon, à un niveau beaucoup plus bénin, mais les infractions routières, mm-hmm. il y a un pourcentage ridicule qui est poursuivi, quoi.
Ouais.
Après, elles sont pas sur plainte, donc il faut choper la personne. Il n'y a pas de démarche à faire. Mais il y a aussi tout ce qui peut être de tromperie dans le sens pécunier. Tu te fais avoir par ton trader qui t'a vendu mon émerveil, etc.
Mm-hmm.
Dans quelle mesure ces infractions, elles sont punies et dénoncées ? Parce que là aussi, l'entonnoir, il est assez impressionnant. Entre j'ai été tellement naïf que finalement l'autre ne remplit pas les conditions d'une infraction, parce que c'était tellement c'était obvious et puis j'aurais dû m'en douter. Après, il y a la statistique, j'ai pas perdu tant d'argent que ça. Après, il y a la statistique de, j'ai mieux à faire que de porter plainte. Les entonnoirs, ils existent de toute façon.
Je comprends ce que tu dis. Hein. Je comprends qu'il y a des entonnoirs partout et pour des raisons différentes. Moi, ce qui me casse le cœur, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on va pas me croire. Alors
ouais.
que si t'as un truc
ouais.
sur la route, on va pas dire on va pas me croire. On va juste me dire le gars, il s'est cassé, je sais pas qui c'est, ça sert à rien. Et même genre, si je me fais braquer dans la rue, je vais peut-être pas porter plainte pour plein de raisons, mais je vais pas me dire, la police va me dire, t'es sûr que t'avais un porte-monnaie ? C'est la nature de ce qui se passe là qui casse le cœur. Parce que qu'il y ait un entonnoir partout, encore une fois, je peux tout à fait le concevoir. Mais c'est la nature. C'est une accumulation de tellement de choses qui sont
ouais.
similaires. Ce serait en vain, on va pas me croire, pas sûr d'avoir le droit de le faire, j'ai pas confiance à la police. C'est quand même terrible.
Ouais, et puis là c'est en termes de pourcentage, mais certainement que ça se cumule.
Et en fait, quand j'écoute des cas comme Juliette, peut-être quelque part, j'entends ça de la part de l'avocate. En mode genre, ça va être en vain. elle est dépitée.
Ouais.
Je la connais pas, encore une fois, j'en sais rien. Parce que t'as parlé aussi, je vais changer un peu de... Je vais prendre un virage. La dernière fois qu'on a parlé, tu m'as parlé aussi du but, en fait, du code pénal. Et ça, c'est peut-être important qu'on en parle, parce que tu disais, le code pénal, son but, c'est pas de s'occuper de la victime, son but, c'est de s'occuper du prévenu. De vraiment tirer au clair, en fait, une situation en s'occupant du prévenu. Et aussi, t'avais parlé de donner l'exemple.
Oui.
Est-ce que tu peux peut-être un petit peu parler de ça?
Ouais, alors effectivement, donc, enfin, le principe du droit pénal, c'est la prévention spéciale et générale. Enfin, d'abord, on aimerait faire le point sur la culpabilité de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est semi-grave? Où est-ce qu'on en est avec lui? Ensuite, on va prononcer une peine ou une mesure en fonction par prévention spéciale, tout d'abord, c'est-à-dire pour le dissuader de recommencer. C'est éducatif, alors douce illusion ou pas, haut de débat. Ouais. Et puis, la prévention, elle est également générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au reste de la population. Il faut qu'on sache que c'est pas OK de violer quelqu'un et qu'il y a des conséquences. Raison pour laquelle, tout ça est public. Voilà, le jugement va être publié, alors de manière anonyme. Raison pour laquelle aussi il y a des inscriptions au casier judiciaire, très important aussi. Ça, c'est un peu le but du code pénal. Mais effectivement, là, le droit pénal s'occupe du prévenu. Il s'occupe pas de la victime. La victime, pour ça, elle a la justice civile qui va la récompenser en argent.
Donc toi, tu disais, je trouvais ça très important ce que tu disais quand on a parlé au téléphone. Tu disais, en fait, c'est très important de faire le point avec la victime de pourquoi tu portes plainte et de la rendre consciente du fait que, en fait, c'est pas le code pénal qui va s'occuper de ta guérison, quelque part.
Effectivement. Effectivement, la victime, elle doit être prévenue de ça. L'impact des infractions, des agissements du prévenu sur sa personne va être considéré pour codifier un peu ses prétentions civiles. Par exemple, elle peut plus bosser à 100%, on doit admettre que c'est en lien avec ce qu'elle a subi, etc. On va dire, ok, ça vaut combien tout ça? Ah, ça vaut 30 000 francs, voilà madame, votre peine vaut 30 000 francs.
Ça, c'est code civil.
Ça, c'est les prétentions civiles qu'on peut faire valoir dans le procès pénal. Mais c'est clair que c'est marginal par rapport à l'objet du procès pénal qui porte sur l'auteur. Au-delà de ça, c'est pas son procès, effectivement, c'est le procès de l'auteur.
Procès,
donc quelque part, elle est un élément qui permet de faire condamner l'auteur. En le disant à haute voix, voilà, c'est très valorisant pour la victime.
Ouais,
après, il faut qu'elle décide en fonction. Après, elle dit, ouais, mais moi, je veux pas juste être un objet qui sert à faire condamner quelqu'un, je veux... Et là, on va commencer à avoir peur. On va dire, ah, mais elle va peut-être pas être entendue comme elle l'entend.
Comme elle veut être entendue, En parlant de ça, tu avais aussi parlé, je trouvais ça très intéressant, de ce sentiment de disproportion par rapport à ce que la victime a vécu, ce qui a été très, très grave, et par rapport à la peine donnée. Il peut y avoir un sentiment de disproportion, et tu avais un exemple de la voiture, en fait.
Ouais, j'aime bien sur l'accident de voiture, parce que c'est vrai que beaucoup de gens conduisent, y compris moi, et puis on sait très bien que, voilà, même une fois en juste, je sais pas, regardant le GPS ou quoi, on peut causer un accident, donc un acte qui est très anodin, qui peut arriver à tout le monde, oups, ah là, j'ai pas fait très attention.
Tu checkes deux secondes ton téléphone.
Tu checkes deux secondes ton téléphone, tu sais que t'as pas le droit, tu sais,
mais
voilà.
Mais tout le monde le fait un petit peu.
Tout le monde le fait un petit peu, ou alors t'es dans la lune. Et accident gravissime, tu tues une famille entière, les répercussions sont atroces. Est-ce que là on doit te juger pour la gravité de l'acte que tu as commis, donc sur ta culpabilité, qui finalement est un acte assez anodin que t'as pas fait en pleine conscience des conséquences de l'acte, ou est-ce que tu dois être puni selon la peine atroce que t'as causée à une famille entière, quoi? Et là, il y a une disproportion, c'est atroce, quoi.
Et en fait, ça m'a beaucoup parlé, cet exemple, parce que, encore une fois, moi, je sors du tout ce qui est le droit, et j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une victime de viol qui a vécu quelque chose d'atroce, et on a une société qui banalise les actes sexuels commis par des hommes qui vont dire, ah mais tu sais, par exemple tous ces a priori en fait sociétaux qui sont genre, les hommes ils ont toujours envie de baiser de toute façon, ah tu sais, mais elle a pas dit oui mais elle a pas dit non, donc tu peux comprendre le jeune homme qui est chaud, voilà, il avait envie, puis il était belle, puis elle était en mini jupe, puis voilà. Donc j'ai l'impression que ce que tu décris, qui est un mécanisme quand même, enfin dur à entendre, mais pour protéger des gens qui ont commis un acte, deux secondes tu regardes ton téléphone et tu causes la mort de 5 personnes, là c'est censé protéger un petit peu la personne qui a commis cet acte, c'est utilisé pour atténuer ce que les hommes commettent, en fait. Alors, et moi, ça me fait vraiment mal.
Ouais, maintenant, je pense quand même qu'un prévenu qui entend plaider ça, il faut qu'il s'accroche un peu, parce que la première chose, c'est qu'on va lui demander s'il a vécu dans une caverne ces 20 dernières années.
Ouais, mais des fois, les juges ont vécu dans des cavernes.
J'en sais rien, j'espère pas, j'ose croire que non. Le juge, c'est lui qui rédige le jugement, et puis c'est lui qui le ramasse sur le coin de la gueule quand ça part en cassation et qui reçoit un jugement de l'instance supérieure qui dit, alors on ne comprend pas comment le premier juge a pu croire que rien ne tient, ça va pas du tout, faut qu'il recommence son job. Si le jugement est simplement cassé, il peut être réformé ou cassé. Soit il est changé, donc réformé, on dit si, non, il est quand même coupable. Ou alors le jugement est cassé en disant, c'est tellement mal instruit, le dossier, ça n'a pas été traité correctement, c'est retour à l'envoyeur. et on recommence les auditions.
Justement, ça a été tellement banalisé comme question et on va tellement genre peu condamner les hommes parce qu'on va dire oui, elle va mal la jeune femme, mais en même temps lui, le mec, qu'est-ce que tu veux, il avait bu, c'est un homme, voilà. Que en fait, ça engendre des nouvelles lois. Par exemple, en Espagne, il y a une nouvelle loi. Moi, j'ai lu ça que dans les médias, hein, mais que ça s'appelle non, un non, c'est un non. C'est-à-dire, c'est inscrit dans la loi maintenant qu'il n'y a pas de question de contrainte physique, psychique, je sais pas quoi. Mais si on dit non, c'est que c'est non, puis point en fait.
Ouais. Alors ça, c'est, je sais pas si on en parlait maintenant, mais c'est l'objet.
Ouais. Parlons de ce qui se passe, la loi en Suisse.
En gros, on regarde quand même. On ne fait pas partie de l'Europe, mais on regarde ce qui se passe en Europe. Et puis effectivement, là, on a vu qu'il y a pas mal de pays d'Europe qui bougent au niveau du non, c'est non. Et puis c'est dans ce sens que le Conseil fédéral a décidé de réformer l'infraction de viol en modifiant le code pénal dans ce sens. Donc, selon le droit en vigueur pour le moment, le viol, il implique l'exercice d'une contrainte sur la victime. La contrainte, elle peut aussi être psychologique. Ça, on a déjà un petit peu évolué dans ce sens, mais il n'en demeure pas moins que ça suscite pas mal d'incompréhension.
Et... Mais oui, parce que si les juges et les avocats ne sont... C'est pas des psys, en fait. Donc, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué. Et puis là, on... enfin, voilà, de temps en temps, on lit un peu des arrêts où le juge dit vu le droit en vigueur, moi, je suis un peu obligé d'acquitter parce que sinon, je viole le principe de la légalité, mais bon, bientôt, la loi va changer. Donc, effectivement, ça répond à un besoin, je pense, qui est quand même largement admis au niveau européen et suisse. À l'avenir, donc, quand tout ça sera bien formalisé, parce qu'on passe donc, dans notre système bicaméraliste par les chambres, etc., et puis après, on traduit tout ça, parce que c'est tout rédigé en allemand. mais à l'avenir, et tout soudain, quiconque passera outre la volonté de la victime sans même recourir à la violence ou à des menaces, se rendra punissable de viol. Donc, on est élargit vraiment le spectre et enfin voilà, le marketing du projet c'est non.
Est-ce que la définition du viol va au-delà de la pénétration d'un pénis d'un vagin, pardon?
Ouais, parce qu'elle sera un homme pour être violée. Alors après, je pense que c'est aussi important aussi pour des personnes qui sont plus ou moins genrées ou d'un côté ou de l'autre, donc ça je pense que c'est un cadre bienvenu. Et du coup, le législateur fait le pas là d'élargir ce spectre de punissabilité et puis voilà, je pense que c'est une super bonne nouvelle. Enfin, le droit, il doit évoluer comme ça selon la société.
Non, parce qu'il donne le temps, en fait. Parce que tu parlais avant de donner l'exemple à la société aussi. Donc ça donne le ton, c'est très important, parce que si tu forces une fellation à une femme et finalement c'est pas du viol selon la loi, même si c'est dans le catalogue des infractions, culturellement je trouve que c'est très important, quoi.
Oui, il faut que les gens comprennent.
Mais oui.
C'est vraiment la manière dont le droit évolue, c'est en suivant la société. Bah tu vois, le célèbre procès de Bobigny en 1972, où notre chef de file, Gisèle Halimi, elle a un peu dit, les gars, en fait, on arrête avec la punition de l'avortement. On arrête. Et 3 ans plus tard, la France légalise l'IVG. Il y a des étapes plus ou moins progressives. Il y a eu beaucoup d'ondes de choc, je pense, avec des cas isolés. Voilà, on évolue. Après, c'est clair que la Suisse fait les choses très correctement et donc très lentement. Effectivement, tu dis que l'Espagne nous a pris de vitesse. Voilà, après, je pense qu'il faut quand même saluer la démarche. Au moins, on fait quelque chose, quoi.
Encore une fois, je vais te parler en tant que citoyenne libre et responsable. Je suis pas avocate ni rien, je suis pas au barreau. Mais je vais te dire ce que je vis, moi, en fait. Si tu me dis que le code pénal a aussi pour but de donner un exemple public, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux millénaire. On a tellement joué sur le doute irréductible longtemps, on a tellement peu condamné les hommes, que ça montre l'exemple inverse aux hommes, en fait. Ça veut dire que faites cette infraction, c'est pas grave, les gars. Les femmes, du coup, voient ça. Ça fait le cercle vicieux que les femmes portent encore moins plainte parce que c'est en vain, comme le voit dans les statistiques en Suisse, en fait. Et ça continue comme ça. Et encore aujourd'hui, le fait que la plupart des hommes... ils savent qu'il faut y aller pour qu'ils violent et qu'ils soient condamnés. Pour que la victime porte plainte, il faut y aller.
Ça rend pas de chance, quoi. On a l'impression si on se fait condamner. Non, ouais.
Non, vraiment.
Alors après, c'est clair que notre système est construit sur l'évitement des erreurs judiciaires. Ça fait très peur, les erreurs judiciaires. Parce que du coup, une fois qu'elles sont avérées, ben, on perd la confiance du citoyen.
Mais la confiance des femmes a été perdue.
Exactement.
A déjà été perdue.
Hein. Exactement. Ouais. On jongle entre ces intérêts-là. Je dois protéger mes citoyens, mais je dois éviter de commettre des erreurs judiciaires qui entravent cette confiance. Encore une fois, c'est une question qui malheureusement qui peut pour moi être résolue cas par cas.
Moi j'ai l'impression que on peut pas parler que en cas par cas. Je vais t'expliquer ma réflexion. C'est que il faut reconnaître qu'il y a un problème sociétal. En fait, je sais qu'il y a des hommes qui sont victimes de viol, il y a des hommes qui violent des hommes, il y a des femmes qui peuvent violer des hommes, tout ça. Mais le cas de ma majorité écrasante, c'est les hommes qui commettent des agressions sexuelles et c'est les femmes les victimes. C'est un problème sociétal qui est là. Il y a des statistiques, c'est là. Donc en tant que ministère public, à un moment donné, il faut peut-être arrêter le cas par cas dans la réflexion de seconde et dire on a ce problème-là, il faut l'attaquer. Il faut peut-être entreprendre des mécanismes, certainement en collaboration avec d'autres organes de l'État, mm-hmm. de un, pour inciter les femmes à porter plainte, genre faire des campagnes de sensibilisation, dire en fait portez plainte, vous avez le droit de porter plainte, connaissez votre droit, je sais pas, mettre des avocates à disposition pour ça.
Ouais, à l'école hein, aussi déjà.
Et en fait, cette question du doute irréductible, tu peux pas faire abstraction de la statistique en fait. Il y a le cas par cas, mais il y a aussi la statistique. Genre, faut pas faire de la discrimination, il faut pas faire du préjugé du parce que t'es un homme, bah c'est clair que tu violes. Je dis pas qu'il faut rentrer là-dedans parce que là c'est des mécanismes très très dangereux.
Tout est très vite une pente glissante.
Alors ça, je suis pas d'accord parce qu'en fait, on utilise beaucoup l'argument de la pente glissante, mais en fait, on peut s'arrêter deux secondes aussi et pas glisser en fait. Et je dis pas qu'il faut faire ça. Ah c'est un homme, alors c'est clair que la femme elle a raison. Je dis pas ça. Mais ce que je dis c'est que à un moment donné, en tant que ministère public, il faut se regarder dans le miroir. Il faut taper dedans. Il faut reconnaître qu'il faut faire mieux. Il faut s'améliorer parce que d'un côté, on a perdu la confiance de la moitié de la population, on a perdu la confiance des femmes. Et le fait est qu'il y a la plupart des viols qui passent inaperçus. Donc il y a un truc qui fonctionne pas là.
Oui, et puis quand on voit des sondages qui disent j'ai peur de porter plainte parce que j'ai peur de passer pour la taupe de service qui dramatise et qu'on va pas croire, ok, tous les voyants sont au rouge.
Et tu sais, je vais te dire ce qu'elle m'a dit, Juliette. Elle sait en fait qu'on fait cet entretien. Je vais couper si elle veut pas que je le dise, mais elle m'a dit j'ai trop peur de cet entretien parce que d'un point de vue juridique, j'ai peur que mon histoire soit un peu démontée ou dédramatisée.
Ouais, c'est affreux. Non, c'est affreux.
Même le fait que moi, je voyais une avocate pour un podcast, elle dit j'ai peur que mon histoire soit dédramatisée et démontée.
Non, alors je pense que de toute façon, Juliette et toute autre femme et autre victime ont le droit de savoir deux choses. Tout d'abord, effectivement, qu'on fasse une petite projection sur leur dossier en disant « Ok, ça, il faudra qu'on soit super convaincant là-dessus, c'est un élément un peu plus faible, ça, par contre, c'est une super preuve, ça, c'en est une un peu moins bonne. Du coup, la stratégie, c'est qu'on va faire ci et ça, mais du coup, la personne est prévenue. » Parce que c'est quand même assez violent, on construit une fiction judiciaire, quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, la victime, pour moi, a le droit de savoir ce qu'on pense qu'il va porter. On n'a pas de boule de cristal, mais on se dit « Ah, ça va être super convaincant, ça peut-être moins, etc.
Ouais. »
C'est la première étape, d'objectiver un peu le dossier. Maintenant, Juliette et toute autre femme et victime ont le droit d'avoir une défense qui va tout donner pour elle, quoi. Et qui va jamais faiblir et qui va dire « Mais moi, je vais tout faire pour que cette Juliette, elle soit entendue, etc. » Par contre, de lancer une Juliette en lui disant « Regarde comment je vais plaider ta cause » sans lui dire « J'ai peur que cet élément-là soit peu retenu, etc. » Ça, je trouve que c'est déjà plus difficile. Donc, la victime, elle a le droit d'être totalement informée et après qu'on donne tout pour elle.
Oui, il faut lui dire que le fait est qu'on vit dans une société où les hommes sont peu condamnés pour des actes d'agression, en fait, statistiquement parlant.
Non, je pense qu'il doit être mis en balance avec le fait de est-ce que les gens sont statistiquement beaucoup condamnés ou pas. Quelque part, je pense qu'il faut le placer dans le spectre de la justice où on peut dire, bon, on est dans ce pays plus ou moins prudent avec des condamnations dans l'absolu. Cette statistique, elle doit être là pour informer les gens, mais pas pour les dissuader. Parce qu'on doit se battre pour ces gens-là, c'est une évidence.
C'est ça, en fait. Et là, j'aimerais faire un truc, c'est que tu m'as dit que le code pénal n'est malheureusement pas là pour prendre soin de la victime, elle est là pour s'occuper du prévenu. Est-ce que si nous deux, là, on prend deux secondes soin de Juliette, en fait ? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, lui dire ?
Ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui ?
Ouais. Enfin, encore une fois, j'aimerais vraiment préciser, tu n'es pas son avocat, donc c'est pas un conseil juridique.
Et je n'ai lu aucune pièce du dossier, je ne sais rien du dossier, hormis ce qui s'est dit aujourd'hui.
Donc, ce que tu sais, c'est qu'elle a eu des rapports sexuels avec un homme quand elle avait 14 et 15 ans. Cet homme avait plus de 3 ans qu'elle. À un moment donné, il avait 18 ans. Puis elle les décrit comme viol parce qu'elle n'était pas consentante, elle était sous emprise psychique. Donc vu juste les âges. En fait, parce qu'elle, quand elle est allée voir une avocate d'une association, elle n'a pas dit plus que ça aussi. Hein.
Ouais.
En plus, plus tard, elle a été hospitalisée pour dépression sévère.
Ouais, ça, c'est important.
Elle a fait de l'anorexie, je crois. Beaucoup de gens autour d'elle connaissent son histoire. Voilà, elle a raconté l'histoire. Sans donner un conseil juridique à Juliette, toi, tu dirais qu'un cas comme ça, est-ce qu'elle aurait de l'espoir d'obtenir quelque chose ?
Mais il faut toujours, je pense, effectivement. Parce que c'est atroce de préjuger un cas en se disant, de toute façon, ce ne serait pas cru. Puis raison pour laquelle, si on sent que c'est l'interlocuteur qui a ce raisonnement-là, on peut demander sa récusation. Si vous avez un procureur ou un juge, vous voyez qu'il passe outre sur tous les éléments clés du dossier, le procureur, il sait très bien. Hein. S'il fait ça, il s'expose à un risque de récusation. Le juge aussi. Voilà, ça, c'est aussi un garde-fou de plus. Maintenant, la décision... Et c'est là, pour moi, que c'est toujours important de défendre des personnes et pas des causes. Moi, j'ai envie que ça change en Suisse, que les hommes soient plus condamnés pour des faits de viol, je peux pas tirer toutes les victimes qui sont susceptibles de servir violer cette cause, je peux pas les tirer devant un tribunal, parce que c'est la victime qui doit décider.
Ouais.
Donc voilà, je dois défendre une victime et pas une cause. C'est extrêmement important.
Ouais, ça, c'est très intéressant.
Donc
ouais.
Si une personne qui a été victime de choses horribles, parce qu'elle est même pas obligée de porter plainte, tu vois quoi, c'est des infractions qui sont poursuivies d'office. Hein.
Ah, donc agression sexuelle sur enfant, c'est poursuivi d'office.
C'est poursuivi d'office, il n'y a pas besoin de plainte. Ouais. Il faut juste que les autorités aient connaissance de ce fait. Même si elle retire sa plainte, la poursuite pénale continue. C'est là où l'État, c'est pas juste l'arbitre entre deux voisines pour un conflit de buanderie. C'est un truc où l'État, il doit protéger les citoyens.
Ouais,
donc il va au-delà de quelqu'un n'est pas content. Il est au-delà de la société n'est pas contente.
Donc moi je veux pas non plus pousser Juliette dans un sens ou dans
mais
un
non,
autre.
Mais non, et moi non plus.
Ouais, mais pas du tout. Vraiment, c'est son choix. Mais en fait, du coup, toi, tu dis... Il faut espérer qu'elle obtiendrait plus que quelques jours amende. Et je te comprends du point de vue humain et philosophique. Enfin, il faut y croire, il faut espérer, il faut se battre. Mais au-delà de tout ce que toi, tu espères, toi, tu penses que, pas Juliette, mais des cas comme ça peuvent obtenir des condamnations intéressantes.
Moi, j'ose croire, ouais. Encore une fois, c'est quand même placé en mains de procureurs qui ont beaucoup d'outils à disposition. Hein.
Ouais.
Ils font des mandats d'investigation à la police, ils interviennent à plusieurs niveaux. Après, c'est clair qu'une fois qu'on est vraiment arrivé au bout de l'instruction des faits, si dans le dossier, il n'y a rien, tout le monde est un peu mal à l'aise, quoi. Il y aura beaucoup de ressentis de la part des magistrats qui vont entrer en compte, raison pour laquelle on entend les gens en audience, on veut les regarder dans les yeux. Et à un moment donné, oui, il y a des biais personnels, il y a des biais sociétaux, il y a des biais culturels. Comment les résoudre ? Je sais pas.
La loi est de son côté quand même. La loi.
Alors,
je dis pas le processus judiciaire,
loi,
comment ça se
passe.
La
loi a vocation de la protéger dans sa position. C'est la volonté du législateur. Le législateur, c'est toi et moi qui allons voter, qui élisons des gens, qui font des lois, qui réfléchissent beaucoup, j'espère. La volonté du législateur, c'est de protéger Juliette.
Ok. Donc ça, c'est là.
Puis voilà, on fait ce qu'on peut. On peut régler de manière générale et abstraite des cas individuels et concrets. Et là, on voit déjà qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ce principe-là, quoi.
Non.
La loi peut pas régler tous les cas. La loi doit nous donner des outils pour argumenter pour argumenter contre, et puis la loi nous donne le droit à un juge impartial pour trancher, quoi.
Donc la loi est là, après le processus peut être très éprouvant.
Biaisé.
Exactement, et bordélique des
bordélique,
fois, et pas aller dans tous les sens.
Épuisant, tous les trois jours un mail de ce vieil avocat qui dit « voilà le courrier, faut lire, si vous avez des remarques, faut me dire ». C'est beaucoup d'administratif parce que beaucoup de garanties de procédure, toutes les infos doivent circuler, le prévenu a le droit de tout savoir, ce qui est retenu contre lui, etc. Je pense que ça peut ressembler à prendre un job à 10%, quoi, en plus, quoi.
Ouais,
ça pose des questions d'une dimension, alors que je suis en tout cas la dernière à maîtriser, mais est-ce que ce qui me répare, c'est qu'on me donne de l'argent ? Ça pose la question de...
Oui,
c'est atroce, quoi.
C'est quoi une réparation ?
C'est quoi une réparation pécuniaire ? Ouais. De toute façon, le débat, il devient vite malsain, éthiquement, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, je pense que la seule justice pénale n'a pas vocation à réparer une victime.
C'est ça.
On n'est pas armé, on n'est pas...
Ouais. J'ai une autre question, j'y pense maintenant. Pour une victime ou d'autres termes que les gens veulent utiliser, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le terme victime, survivante,
il y a
plein de termes. Est-ce qu'elle a, ton avis, intérêt à avoir une avocate comme toi ou une avocate avec une posture féministe et activiste ? Quels sont les pour et les contre ?
Très, très compliqué de répondre. Je pense que, qu'il faut être tout d'abord bien au fait de ce qu'on raconte aux gens, donc être formé et puis être dans une certaine mesure quand même spécialisé ou avoir un peu l'habitude, quoi. Maintenant, il y a le fait de bien connaître ce qu'on fait et puis il y a le fait d'avoir une posture attendue. Je pense que c'est assez délicat et puis moi, c'est peut-être un truc dont j'arrive pas à me rendre compte puis je suis peut-être pas la bonne interlocutrice. Faudrait plutôt que les autorités, etc. sachent. Ce serait dommage que parce qu'une personne, une consoeur ou un confrère plaide toujours les mêmes causes, qu'on se dise « Ah ouais, ça va être maître machin, de toute façon, on sait bien ce qu'il va nous raconter. » Ça, ce serait dommage.
C'est un peu le risque.
J'ose croire que ça n'existe pas, c'est le risque quand même. Maintenant, je pense que mes consoeurs et confrères qui ont une posture connue sont forcément spécialisés, donc ça peut déjà donner une bonne garantie de connaissances suffisantes.
Ouais. C'est déjà des éléments de réponse.
Il faut juste que les avocats, ils aient de la conviction et puis qu'ils aient bien fait leur job de manière approfondie au niveau prise de connaissances, écoute du client pour bien connaître tous les éléments du dossier. Après, à l'avantage, ça peut aussi faire très peur, on se dit oulala, elle va pas lâcher, elle c'est une tenace pour ce genre d'affaires, elle va faire de notre vie un calvaire, on a meilleur temps de bien écouter ce qu'elle dit parce qu'elle va tout voir. Ça c'est aussi très possible. Je pense quand même que celui qui se spécialise et qui défend un postulat dans des causes pareilles, il y met toute son âme et son cœur et que c'est quand même super important, quoi.
Yes.
Toujours doivent être défendues les personnes et pas les causes dans l'abstrait.
Ça c'est une très très bonne remarque. Je pense que c'est une gymnastique à avoir la connaissance de la cause et la connaissance du big picture, en fait.
Ouais, exactement.
Par contre, ne pas oublier que tu t'occupes d'une personne et pas de cause ou de notion. Merci beaucoup, Laurence.
Merci, Lirza.
C'était très intéressant.
Merci
de prendre ton temps pour faire ça, de
donner
du temps au podcast.
C'est important.
C'était Laurence, avocate au barreau, basée à Lausanne. L'échange avec Laurence a été assez difficile pour moi et beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je pense qu'il est venu remuer quelque chose qui est cristallisé depuis que je suis toute petite. De la même façon dont j'ai appris que si je lève les yeux, je vais voir un ciel bleu, j'ai aussi appris que parce que je suis une femme, ce qui m'est demandé est que je taise mes besoins, mes envies, qui je suis, au bénéfice de l'épanouissement des hommes. Parler de justice fait particulièrement mal. Nous revenons vers Juliette pour qu'elle nous dise comment cette écoute s'est passée pour elle, ce qu'elle en a pensé et en quelle mesure ça a pu alimenter ses réflexions.
Alors moi j'étais très mitigée, enfin je l'ai écoutée deux fois du coup pour être un peu au clair sur ce qu'elle disait. Mais la première écoute ça a été un vrai bouleversement parce que tout d'un coup j'avais accès à des informations que j'avais pas eues la première fois en ayant voir l'avocate en juin 2021. Et du coup ça m'a mis un peu sur le cul de me dire waouh, en fait là je peux juste aller voir un policier et lui dire il s'est passé ça dans ma vie, en fait j'ai même pas besoin de porter plainte et il y aura quelque chose qui va en suivre.
Oui parce que Laurence elle explique qu'en fait même si tu retires ta plainte, si l'État est au courant qu'il y a eu ce genre d'effraction, la procédure peut continuer.
Ce sera sans moi, c'est juste un fait qu'elle a. Ouais. Et puis voilà, ça m'a quand même vachement rassurée. Mais en même temps, j'aurais eu 2 mois de moins. Je serais née en décembre, que j'aurais pas pu avoir cette opportunité-là, ou lui aurait eu 2 mois de moins, qu'on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Du coup, je trouve ça un peu vain, parce que de toute façon, il aurait pas été inculpé pour viol. Et puis moi, c'est ça la partie qui me fait mal.
La protection des relations juvéniles, là, que si t'as moins de 3 ans de différence,
il en fait,
y a un palliatif.
Dans mon cas, c'est pas ça qui m'a traumatisée. Ouais. Ce qui m'a traumatisée, c'est qu'il m'ait violée. Ouais. C'est pas qu'on ait fait l'amour, parce qu'il n'y a jamais eu ça, il m'a violée. Ça reste ma plus grande question sur la loi, c'est que pourquoi, alors que avant 16 ans, t'as pas la majorité sexuelle, donc logiquement, t'as pas le discernement possible pour consentir, donc c'est pas du consentement, donc pourquoi c'est pas jugé d'office comme des viols? Surtout quand une victime plaide
te
ça.
Dit.
Ouais. Et qu'il faudrait passer par les mêmes procédures que si j'avais eu 16 ans au lieu de 14. Enfin, je suis obligée de passer par les mêmes procédures, donc mon âge ne sert à rien au final là-dedans. Mm-hmm. Ouais. Enfin, en fait, je m'en fous de mon âge. Et en fait, c'est genre, si ça m'arrive maintenant, j'ai pas envie de me dire qu'en fait ça sert à rien et que là j'ai eu de la chance parce que j'avais 14 ans. Non, enfin, il y a un truc où c'est un peu dégueulasse, quoi. Parce que si vraiment il y a une vraie protection là-dessus, et j'entends bien qu'il y a des histoires d'amour qui peut être jolie et où tout se passe bien entre des gens qui ont peut-être 3 ans ou 3 ans et demi de différence d'âge à cet âge-là, mais s'il y a une des deux personnes qui dit que non, en fait, c'était pas ok et c'était pas consenti, je comprends pas pourquoi c'est pas d'office un viol et que du coup, c'est bon, on y va et en fait, on protège l'enfant. Pourquoi je devrais passer par, du coup, toutes les autres procédures si c'est normalement d'office suivi, quoi, et poursuivi. Enfin, au début, j'étais un peu étonnée et très bouleversée, en fait, par cette information. J'étais là, waouh, en fait, je peux faire ça. Mais en y réfléchissant, j'étais là, mais en fait, non.
Genre, ça jouerait en ta faveur, entre guillemets, parce que vous avez eu plus de 3 ans de différence, mais ça te dégoûte en même temps que ce soit comme ça.
Parce que j'aurais pu être née en décembre, et puis que du coup, ça vaut plus rien. Et qu'il y a un truc où je suis là, mais si ça existe, ça doit nous aider quelque part. Ça doit faciliter les plaintes pour viol. Parce que oui, c'est logique qu'elle s'est fait violer, parce que c'était un enfant.
Oui, aux yeux de la loi, elle est considérée
loi,
comme un enfant.
C'était un enfant, c'est un viol. Donc c'est un viol, point. En plus, elle le dit que c'est un viol, donc point. Oui. Et là, il y aura une sentence pour viol. Tandis que si c'est le cas contraire et qu'en fait, c'était une relation totalement consentie et puis c'était super, quelques jours amende, mais on vérifie bien que c'était consenti et que tout le monde va bien, que personne en souffre et que voilà.
Et de toute façon, si c'est consenti, il n'y a pas la police.
Ouais, et de toute façon, personne ne porte plainte si c'est consenti.
Oui.
Donc il y a un truc où ça me dépasse un peu. Enfin, en règle générale, ça m'a appris beaucoup de choses, par exemple, rien que l'utilité en fait de la présomption d'innocence, mais en même temps, je trouve ça un peu dégueulasse parce que du coup, comme on en discutait avant, si on décide que le prévenu est innocent, on décide aussi que la victime, que la personne qui porte plainte est coupable et ment. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup observé dans mon entourage avec des personnes qui ont porté plainte pour viol, agression, surtout dans des cas comme ça, où c'était vraiment tout de suite un procès de est-ce que t'es une bonne victime ? Est-ce que t'as tout bien fait comme il faut ? Et c'est vraiment, on doit dévoiler son intimité tout entière avec des vidéos, des trucs hyper personnels à des moments hyper fragiles de nos vies. Et en fait, tout doit être parfait. Chaque détail doit être parfait, doit être clean au max, parce qu'on doit être une bonne victime, sinon ça va pas. Et moi, ça, c'est aussi un truc qui me dérange, parce que du coup, c'est bien que ça existe, cette présomption d'innocence pour tous les droits qu'elle amène, mais en même temps, ça inclut que du coup, les personnes qui vont porter plainte, c'est elle les coupables, et du coup on va les pointer du doigt et les malmener pendant tout le procès, jusqu'à ce qu'on se dise ah, en fait peut-être pas, peut-être que c'est elles les victimes et peut-être qu'elles ont vraiment souffert.
Ouais. Ça, quand t'as dit ça, ça m'a trop flashé en fait, parce que même si on oublie le sexisme et le patriarcat, on oublie ça deux secondes, en effet, du moment que tu présupposes que le prévenu est innocent, par définition tu présupposes que la plaignante ment en fait, ou est coupable, du coup c'est un exercice de déculpabiliser la victime, ce qui est violent quoi. En fait. Et en plus là t'ajoutes des couches de sexisme, on croit pas les femmes, on protège
les
hommes,
c'est ça. Et puis c'est tout de suite, bah tu mens. Ouais. Et du coup, enfin, il y a un truc où si un jour je décide de porter plainte, ce que je pense pas faire, et je pourrais l'expliquer après pourquoi, juste me retrouver dans une salle avec des policiers qui sont là genre, haha, non mais tu mens. Et du coup, prouve-nous que tu mens pas. C'est impossible, parce que c'est impossible à prouver un consentement en fait. La plupart des femmes qui ont le courage de porter plainte pour viol, pourquoi elle mentirait, quoi. Il y a un truc où c'est qu'on sait à quoi on s'expose, donc à quoi ça sert de mentir en plus. Enfin, il y a un truc où...
Oui, il y a une espèce de narratif sur lequel apparemment il y a des millions à se faire, hein, en accusant des hommes à tort de viol. Hein, mais,
alors que non, c'est plutôt on perd des millions.
Mais
et
je sais pas qui c'est, ces femmes viles et hystériques qui mettent à mal des hommes.
Quelle femme qui a subi un viol, ça fait de la thune, franchement.
Elle en a plutôt perdu en faisant toutes les procédures, en ayant un avocat et en perdant sa dignité. En se faisant humilier devant tout un tribunal, ça fait pas sens. Et puis il y a un truc pour moi qui du coup fait pas sens non plus dans le sens de porter plainte pour viol, parce que c'est juste de l'humiliation en fait. C'est juste des gens qui sont là et qui sont là, non mais tu mens, on te croit pas. Pourquoi dans cette vidéo t'es en petite culotte? C'est que du coup t'avais quand même bien envie. Enfin moi je vais pas citer qui est cette personne et je pense pas qu'elle écoutera cet épisode, mais j'ai quand même une amie, enfin une personne que je connais, qui a subi une agression hyper violente, mais super violente, où à 12 ans elle a subi une tentative de viol en groupe, donc de 5 mecs qui avaient 17 ans. Elle s'est fait tabasser la gueule, elle est allée à la police donc la gueule en sang, en disant que voilà j'ai 12 ans, il s'est passé ça 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 ça, et les policiers qui lui ont dit mais c'est des garçons, tu les as bien provoqués.
Boys will be boys.
C'est un peu ça. Et t'es là, mais comment tu peux dire ça d'une enfant de 12 ans et des garçons de 17 ans? Enfin, au bout d'un moment, merde, quoi. Et puis, il y a un truc où... Pourquoi vivre cette humiliation volontairement pour de la thune? Enfin, si on ment, il y a un truc où ça me...
Puis quelle thune?
Puis quelle thune?
Puis quelle thune?
Elle vient d'où, cette thune?
Rendez l'argent, il est où?
Mais vraiment,
on sait pas, hein.
Vraiment, sur le papier, Laurence dit plein de choses hyper intéressantes, et puis on voit qu'il y a beaucoup d'espoir dans sa voix. Il y a un truc où il y a de l'élan, et ça fait du bien à entendre, en vrai. Mais ça se passe jamais comme ça. La justice, elle est pas avec nous pour ce genre de cas. Et ça, c'est dramatique, et ça fait trop mal, en fait.
On en parle avec Laurence, c'est qu'elle parle du fait que le code pénal doit servir à prévenir des cas spécifiques et généraux. C'est le but aussi de donner un exemple, en fait, dans la société. Et moi, je suis là, en fait, bah, ça a marché, en fait. Il y a tellement d'hommes qui ont été acquittés que ça a donné l'exemple aux hommes violés, parce qu'il faut vraiment pas avoir de bol pour être condamné à la fin. Et les femmes, elles ont intériorisé qu'en fait, ça sert à rien. Elles savent vraiment que ça sert à rien de porter plainte. Et on le voit dans les statistiques. C'est genre tellement triste que 8% portent plainte.
Mais bien sûr.
Et les raisons sont très similaires à ce que tu dis. On va pas me croire.
Ça va être humiliant,
c'est
quoi.
C'est ça. Et il y a un truc où c'est pas possible. Enfin, par exemple, moi, si je me fais shooter par une voiture, je retiens la plaque, je vais porter plainte. Jamais une fraction de seconde dans mon cerveau, je vais me dire, mais en fait, on va pas me croire. En fait, on va mettre en doute mon intégrité.
Tu l'as bien cherché.
Non, mais c'est vraiment ça. Et puis,
et d'ailleurs, aux yeux de la loi, si t'es au milieu de la rue en train de faire n'importe quoi et que tu te fais shooter, c'est quand même la faute de l'automobiliste.
Voilà. Ouais. Par contre, se faire violer, là, c'est quand même un petit
quand
peu.
Quand même
ta
bien
faute.
Ta faute. Hein.
T'es quand même une femme, hein. Attention. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant en fait de voir que la loi, il y a des choses en fait qui sont là. Et il y a des gens qui ont un discours qui disent en fait on est là pour vous et ça va le faire et c'est trop bien. Et que dans la réalité ce soit autant différent, il y a un truc qui est hyper violent et qui... J'ai l'impression que plus on en sait sur du coup la loi et sur l'état de la loi, plus c'est rageant et plus c'est frustrant. Enfin il y a un truc où t'es là, si le meurtre passionnel est encore qualifié de meurtre passionnel dans la loi, c'est pas là que notre combat il est, parce que il marche pas en fait.
Le ministère public, il faut qu'il prenne les choses en main, parce que là il y a un problème. Il y a un immense problème, et vraiment je suis pas du tout en train de dire que maintenant, regarder les statistiques, donc systématiquement condamner l'homme, parce que c'est dangereux de rentrer dans des discours
bien
comme
sûr.
Ça, mais il faut aussi se poser deux secondes, se dire en fait on a un problème massif. Vous voulez avoir la confiance des citoyens, vous avez pas la confiance des citoyennes, c'est la moitié de la population.
Bien sûr.
C'est énorme, c'est genre limite un état d'urgence en fait.
Bien sûr. Ça l'est.
Enfin, c'est comme aux yeux de la loi, on est tous et toutes égaux. Il n'y a pas de racisme aux yeux de la loi. Ouais. Mais en fait, le racisme est là parce qu'il est dans des choses qui sont moins prouvables.
Oui.
Enfin, comment tu dis j'ai pas eu cet appart à Lausanne parce que voilà, j'ai un nom arabe, par exemple. Tu peux pas le prouver. Mais en fait, tu sais que tu vas galérer 25 fois plus qu'une personne qui a un nom entre guillemets blanc, quoi. Et ce genre de choses. Et je pense que c'est la même chose en fait avec le viol. C'est que la loi est théoriquement de notre côté, mais en fait, les filtres des gens qui traitent ça, des humains, comme tu dis d'ailleurs dans l'entretien avec Laurence, bah ils ont ces filtres misogynes, racistes, homophobes, tout ce qu'on veut, et du coup c'est traité avec un autre cadre que si c'était pas le cas, et c'est pour ça que c'est compliqué à prouver et qu'à mon avis ça foire comme ça, puis qu'il y a des gens qui continuent à y croire.
Le seul moyen de vraiment voir la réalité en face, c'est de voir les statistiques, genre toutes les personnes arabes qui prennent beaucoup plus de temps que les personnes suisses et blanches à trouver un appart, tu te dis on a un problème en tant que société, quoi.
Oui. Ouais.
Même si du cas par cas t'arrives pas à le prouver, t'as un problème, là il faut le voir en face.
Oui, il y a un énorme problème et c'est une urgence. Et puis comme tu disais, oui, il faut pas systématiquement condamner les hommes pour viol, parce que ça deviendrait dangereux, mais en fait c'est exactement ce qui est en train de se passer, mais
à l'inverse.
Voilà. C'est-à-dire qu'on contacte une personne parce que les victimes sont des femmes, et du coup c'est d'autant plus dangereux parce que du coup on se tourne vers personne. Moi je le vis comme ça, mais la société n'est pas là pour nous et ne le sera pas tant que je sais pas, on fout le feu à tout, quoi. Il y a un espèce de truc où qu'est-ce qu'on doit faire de plus concrètement à part je sais pas quoi faire de plus, et puis en même temps les affaires qui sont condamnées, j'ai du coup connu énormément de violeurs. L'histoire qui m'a le plus choquée, je pense que c'était mon prof de gym de 9, 10, 11, donc on avait entre 12 et 15 ans dans cette période là a été accusé de pédocriminalité. Là, je vais pas aller dans les détails de l'histoire, mais avait agressé une élève. En fait, ce qui est ironique là-dedans, c'est que ok, là la loi elle a fait son taf, mais elle l'a fait complètement à moitié, parce que avant d'être au collège appris, il était dans un collège je sais plus où, dans les Hauts-de-Lausanne,
et pas grand, je crois que tu m'avais dit,
et pas linge, et il avait été viré pour des mêmes faits, et que du coup il a été transféré ailleurs, donc ils se sont juste lancé la patate chaude, et qu'une fois que ça a été trop loin, parce que là les familles ont vraiment commencé à porter plainte et il a commencé vraiment à se faire lyncher, là il a eu je sais pas 200 jours amende, il me semble, donc pas de prison, hein. Parce que pourquoi enfermer un pédophile? Je ne sais pas. En plus, qu'il y a deux enfants en bas âge. Hein, donc voilà, Après. Super. Et on lui a interdit de bosser en tant que prof pendant seulement 10 ans. Donc ça veut dire qu'à 40 ans, il peut reprendre son job. Mais 10 ans, c'est rien. Enfin, toute une vie, en fait. Tu es reconnu comme pédophile. Comment ça, dans 10 ans, tu ne vas plus l'être? Surtout qu'il ne va pas faire de prison. Il n'y a pas eu d'expertise psychologique. Il ne va pas avoir un suivi. Il a eu des jours amende et une interdiction de 10 ans. Donc ça veut dire qu'à 40 ans, il peut revenir dans les écoles sans aucun souci et être en mode YOLO. Et là, il a sûrement fini ce jour amende et puis c'est bon.
J'ai pensé à ça parce que justement Laurence parle du fait que souvent on pense aux peines de privation de liberté, mais il y a aussi de l'expulsion, puis il y a aussi le fait qu'on peut te enlever d'un quartier en fait, ou d'une zone, on peut t'exiler. Et j'ai trop pensé à ce cas, j'étais là, lui, on l'a juste bougé de Épalinges à Prilly. That's it, c'est résolu, on se lave les mains.
Ouais, c'est ça. Alors qu'il avait violé une fille de 14 ans.
L'affaire du doute irréductible, je trouve que c'est un mécanisme très utile. C'est censé, en effet, protéger pour pas que tu sois condamné à tort, en fait. C'est des mécanismes très utiles. Laurence fait la différence entre doute irréductible et le doute abstrait et théorique qui est reconnu par la loi que ça peut toujours exister. Enfin, tu peux jamais être 100% sûr d'une vérité. Donc, il y a toujours un doute abstrait et théorique. Mais quand on vit dans une société sexiste avec ses préjugés, moi, j'ai l'impression qu'on prend le doute abstrait et théorique, on l'appelle doute irréductible dans le cas du viol. Si toi, tu portais plein, t'auras l'expertise des médecins, t'auras l'expertise de ta psy, t'auras les témoignages de plein de gens, t'auras cet épisode de podcast, t'auras tellement de trucs en fait, mais on va dire ouais, mais doute irréductible n'est pas atteint parce qu'il y aura toujours un doute théorique en fait. Ça se peut toujours que t'as fait une dépression pour une autre raison, ça se peut toujours que t'as été anorexique entre guillemets pour une autre raison, et on joue avec ça. Moi j'ai l'impression que ça c'est un garde-fou qui fonctionne pas, quoi.
Ah, mais ça ne fonctionne pas du tout, alors que ça fonctionne très bien sur d'autres plans qui font aucun mal à la société, si je peux me permettre. Ou par exemple, j'ai énormément d'amis qui sont à fond dans les causes pour les squats et des trucs comme ça. Alors là, pour balancer des peines de prison à tout va, là, tout le monde est là, hein, y a pas de souci. Pour occuper une maison abandonnée où tout le monde s'en fout.
Les gens font de la tôle pour ça.
Oui, bien sûr. Mais par contre, quand tu fais vraiment du mal à quelqu'un, que tu la traumatises à vie et que concrètement tu la tues d'une certaine manière, enfin moi j'ai vraiment vécu comme un espèce de meurtre, là c'est pas si grave que ça, quoi.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée et félicitations pour ce podcast. Je m'appelle Alessandra Duc-Marwood, donc je suis pédopsychiatre et thérapeute de famille et je travaille dans une unité qui dépend du CHUV qui s'occupe de violences intrafamiliales.
Merci beaucoup de m'accueillir dans votre cabinet aujourd'hui. Je vais essayer d'être succincte. La question que j'ai pour vous vient de quelque chose que j'ai l'impression d'entendre souvent quand on parle de procès pour viol. J'ai l'impression qu'on va souvent dire que le procès, la procédure va être extrêmement difficile pour la victime, pour la plaignante. Donc j'aimerais essayer de étayer cette question et vous demander, du point de vue de la santé mentale de la plaignante, quels sont les risques et périls ou au contraire les bénéfices d'une plaignante qui s'engage dans une telle procédure? Qu'est-ce qu'elle peut y gagner? Qu'est-ce qu'elle peut y perdre? Qu'est-ce qui peut être soignant? Ou qu'est-ce qui peut être très difficile à vivre, en fait?
Alors, d'un point de vue psychique, c'est très complexe, hein, parce que, en fait, comme en Suisse, il y a la présomption d'innocence. Quand une victime porte plainte, c'est elle qui doit prouver la véracité de ce qu'elle évoque et de ce qu'elle allègue. C'est elle qui va toujours être remise en question sur sa crédibilité, sur la cohérence de son récit, sur beaucoup d'éléments qui font effraction. Alors, en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alternative. Je pense que les deux voies sont bonnes. Ce qui est peut-être un petit peu compliqué et douloureux pour certaines victimes, c'est que le choix soit fait par la société plutôt que par elle-même. Parce que certaines victimes vont choisir de ne pas porter plainte ou de porter plainte une fois pour un événement, mais de plus reporter plainte parce que les procédures sont vraiment extrêmement lourdes. D'autres, à l'inverse, vont avoir besoin de porter plainte, quelle que soit en fait l'issue ensuite du processus. Je pense que néanmoins, l'avantage de porter plainte, d'une part, c'est qu'il y a une reconnaissance la vie, et ça c'est important. Donc même si finalement la procédure aboutit à un non-lieu ou à un classement ou à une innocentisation du coupable, la victime a au moins l'impression que quelque part au niveau sociétal, elle a eu un soutien qui a validé ses perceptions. Donc ça peut être utile. Après, bien sûr, quand il y a des condamnations ou quand il y a en tout cas une reconnaissance des faits, même si finalement il n'y a pas de peine, il peut y avoir une phase de soulagement. Après, ce qui se passe souvent, c'est que la peine est très légère proportionnellement à toute la souffrance psychique des victimes et la souffrance aussi vécue pendant tout le processus de la plainte et puis de l'inculpation. Donc c'est un équilibre subtil, mais la validation est importante. Alors je vous disais tout à l'heure que je trouve que ce que vous faites est vraiment essentiel. C'est une manière aussi de valider la perception et le vécu de ces jeunes femmes. La procédure judiciaire peut aussi être quelque chose de très très douloureux. Donc je pense que, moi, ce avec quoi je serais plus à l'aise, c'est que les jeunes qui ont envie de porter plainte puissent être assez clairement informés de tout ce qui va se passer et puissent faire un choix dans l'ici et maintenant ou un choix ultérieur. C'est-à-dire qu'on puisse leur dire, peut-être que maintenant, c'est important d'en discuter avec tes proches, de voir ce que tu peux avoir comme soutien pour te lancer dans une belle démarche et puis de voir si c'est le bon moment, si c'est plus tard qu'il faudra le faire. Avec un tout petit bémol sur le plus tard, c'est que ça implique de se rappeler de tout ce qui a été vécu. Parce que si on porte plainte plus tard, il va falloir quand même pouvoir amener des preuves, un récit qui tient la route. Donc il faut quelque part le stocker, ce qui peut permettre un processus thérapeutique parce qu'on fait une mise en mots claire de ce qui s'est passé, mais qui peut aussi enquister le traumatisme.
Quand vous dites que ce que vous trouvez dommage, c'est que vous avez l'impression que le choix est fait par la société et pas par les victimes, est-ce que vous faites référence au fait qu'elles sont systématiquement découragées à porter plainte?
Alors, c'est pas systématique. Je dirais que certains avocats vont peut-être plus systématiquement le faire que d'autres, mais j'ai le sentiment que c'est fait avec peu d'explications. C'est-à-dire que les jeunes entendent qu'ils ont peu de chances d'être crus, qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, mais que la procédure est lourde, mais on ne leur explique pas vraiment en quoi consiste la procédure, comment ils vont être auditionnés, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire, s'il y aura confrontation ou pas à l'auteur, s'il y a une confrontation, dans quelles conditions ça devrait se faire, quels sont leurs droits. Moi, j'ai récemment eu une jeune à qui j'ai dû dire qu'elle était autorisée à refuser d'être en séance en présence de l'auteur parce qu'elle avait vraiment vécu des choses extrêmement douloureuses et elle l'ignorait en fait. Elle pensait qu'à partir du moment où on lui disait tu dois être présente, et bien il fallait qu'elle le soit. Donc je pense qu'il faudrait vraiment prendre beaucoup plus de soins pour les informer de tout ce qui va se passer, et puis qu'elles puissent faire un choix plus éclairé.
Est-ce que ce serait aussi intéressant, en même titre que de les informer et de les prévenir sur les risques ou leur droit, de peut-être les informer sur les bénéfices possibles et éventuels, par exemple le cas de figure où on obtient une validation des perceptions, comme vous le dites, en faisant un procès?
Alors c'est souvent pour ça qu'elles y vont, hein, pour la validation et la reconnaissance. Elles en ressortent en ayant le sentiment que c'est pas possible de l'obtenir de la société.
Si on prend le cas inverse, c'est-à-dire une jeune femme, une jeune fille qui ne porte pas plainte, j'ai l'impression, qu'en tant que société, on se dira, bon, on les aura protégés d'une procédure très lourde. Mais est-ce que ça peut être aussi quelque part nocif, ou ça peut faire du mal, ou quels sont les risques, en fait, de leur dire, ne faites rien, ça vous protégera? Est-ce qu'elles ne vont pas se sentir muselées quelque part, car elles sont dans un contexte qui ne les croit pas fondamentalement?
Alors, je vais peut-être juste nuancer votre propos. Je ne pense pas que le contexte, c'est qu'on ne les croit pas. Le contexte, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'éléments juridiques suffisants pour penser qu'on aboutira à une condamnation. Oui. J'imagine que la plupart des avocats qui les découragent les croient. Mais ils ont une bonne connaissance des procédures et ils savent dans combien de cas est-ce qu'il faut pour pouvoir obtenir gain de cause. Et donc quand ils les découragent, c'est pas qu'ils les croient pas, mais c'est qu'ils pensent que ça n'aboutirait pas à quelque chose qui pourrait être réparateur. Okay. Alors que le processus peut l'être, mais je pense que l'avocat voit plutôt la finalité. Si de toute façon ça aboutit à un non-lieu ou à rien, ça signifie que la personne n'aura pas eu sa validation. Alors que le processus peut être une validation. Je pense qu'il y a aussi le risque alors de se sentir non reconnu, et je pense que votre formulation le montrait, c'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on ne la croit pas, alors que ce n'est pas forcément pour ça qu'on la décourage. Il y a aussi le risque, parce que dans tout le processus en fait, de reconstruction, il y a aussi une phase avec un sentiment d'impuissance, un sentiment de colère, un sentiment que voilà, dans la vie on peut nous faire du mal et puis que rien ne se passe. Et ça peut bloquer les jeunes dans ce processus-là, d'avoir le sentiment que finalement on est un peu victime, non seulement d'un auteur de violence, mais aussi d'une société qui a des critères un peu rigides et qui ne peut pas protéger tous ses membres, en fait. Après, je dirais qu'au niveau de la guérison, alors c'est un facteur important, la reconnaissance, la validation, le sentiment d'être cru. Ça peut être une étape importante de passer au tribunal, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut aussi guérir sans avoir porté plainte, comme on peut continuer à aller très mal en ayant porté plainte et en ayant eu gain de cause, mais avec une peine qui est souvent très disproportionnée par rapport à la souffrance de la victime.
Merci beaucoup, docteur Alessandra Duc-Maroud. L'expertise de la psy, qu'est-ce que tu en as pensé ?
J'en ai pensé que c'est très intéressant, parce que je pense que effectivement c'est hyper important dans le processus de guérison de viol d'avoir une certaine validation. Après, moi je sais que j'ai pas besoin d'une validation sociétale et juridique pour me sentir validée en tant que femme et sentir que mon histoire est validée, parce que je sais que, en tout cas, notre société et notre législative est pas là pour nous. Du coup, je me sens validée plutôt à travers les autres histoires des femmes, à travers mes amis, à travers les mouvements féministes. C'est là que je me sens plus validée, parce que je suis avec des gens qui savent de quoi je parle, en fait. Parce que, ok, je pourrais être validée par la loi, mais au final, pour moi, ça veut un peu rien dire, parce que je sais qu'elle est pas derrière moi, et que si, par miracle, je porte plainte et que ça donne quelque chose, j'aurai de la chance. Et j'ai pas envie d'être dans une société où j'ai de la chance que mon violeur a été condamné pour quelque chose, quel que ce soit des jours amendes, que ce soit de la prison, n'importe quoi.
Pourquoi tu veux pas ça ? Est-ce que c'est intéressant ce que tu dis, je trouve ?
Parce que ça fait pas sens. Parce que ça fait pas sens.
D'avoir juste eu du bol, quoi.
Je dois pas avoir de la chance pour obtenir justice, en fait. Enfin, il y a un truc qui, pour moi, fait pas sens. Et puis c'est...
Ça enlève un sentiment de justice, finalement.
Ouais, c'est juste parce que peut-être je suis tombée sur le bon policier, la bonne procureure, machin, qui fait que, j'ai plus de chance que les autres femmes. C'est bon, il a été condamné. Donc pour moi, ça avait un peu plus rien à dire. parce que ça fait rien et que j'ai l'impression que c'est
trop intéressant,
et que j'ai l'impression surtout que ça ne fait rien dans la société en règle générale, alors que c'est là que c'est le plus problématique, parce que enfin on vit dans la société tous les jours avec des gens, et qu'en fait j'ai remarqué que le boycott social marche mille fois mieux que quelles que soient les condamnations que la justice peut donner, en fait. Parce qu'il y a un truc où crier aux diffamations, ça c'est très simple et tout le monde le fait, enfin tous les violeurs que j'ai pu croiser dans ma vie l'ont fait sans aucun problème, mais par contre quand il y a boycott social, là c'est un peu plus dur de tenir tête et de faire le fier. Et c'est ça qui marche le mieux, en fait, et on en est à là, on en est à faire justice nous-mêmes, mais au final si c'est ça qu'il faut pour qu'un jour la justice se réveille un petit peu et se dise ah mais là il y a vraiment une urgence peut-être, bah c'est ce qu'il faudra, quoi.
Qu'est-ce que t'entends par boycott social?
Comme j'ai dit plusieurs fois là jusqu'à maintenant, j'ai connu énormément de violeurs, surtout dans mes super amis. Et bah récemment, donc cet été en fait, on a appris qu'un de nos amis très proche avait violé une de nos amies, et du coup ça a été une catastrophe pour nous, parce que du coup comment on gère ça en tant qu'amie? Donc il y a eu plusieurs cas de figure, les gens qui sont tout de suite boycott de ok, ce mec il se casse de ma vie et c'est mort, je veux plus jamais le voir, je veux plus jamais en entendre parler, il se casse. Et il y avait le cas de figure de oui mais c'est mon pote depuis un moment, oui mais il est triste parce que du coup il a plus trop d'amis, oui mais machin. Et du coup, c'était assez intéressant, en fait, de voir ce genre de réaction, alors que je fais quand même partie d'un milieu très féministe, enfin, qui se dit très féministe, très progressiste, qui vit particulièrement des violences quotidiennes, sexistes, et enfin, j'ai pas une femme autour de moi qui n'a pas une fois vécu une violence sexiste ou une agression. Donc c'est quand même un milieu qui est vachement concerné par ce genre de sujet. Donc c'était assez intéressant que même dans ce genre d'environnement, il y a quand même des gens qui arrivent à trouver des excuses aux violeurs et qui sont là. Je l'ai entendu pleurer l'autre jour. Il est vraiment triste. Donc, il ne faut pas que j'arrête d'être amie avec lui. Mais alors que ça a quand même bien marché pour lui donner un peu une espèce de leçon. En fait, t'as fait quelque chose de vraiment grave.
Vous avez fait quoi? Vous avez arrêté de le voir? Vous l'avez...
On avait un collectif, tous ensemble, de musique. Il a été complètement jarté de ce collectif. Et en fait, le mot s'est répandu. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait un peu que ce mec-là, c'est un violeur. Et ça marche quand même pas mal, en fait, qu'il se rende compte que ses actes ont des conséquences. C'est qu'il a perdu tous ses potes. Lui qui était un peu le roi, et qui avait plein de potes depuis très longtemps. Même une de ses meilleures amies, et ils se connaissaient depuis qu'ils étaient bébés, elle n'a pas hésité à couper les ponts avec lui, et ça a été quand même
ça, c'est
un,
cool,
un gros
que
coup.
Que les gens
n'ont
pas hésité à...
Ouais, c'est clair, mais c'est les femmes qui ont surtout fait ça. Après, les mecs, ils se sont bien trouvé des excuses. Mais,
Donc il y a des mecs qui sont restés potes avec lui?
Bien sûr. Enfin, j'ai un ami qui est resté pote avec lui à un moment, et moi je comprenais pas, parce que cet ami est quand même très sympa, et voilà quoi, il nous connaît. Et puis il y a un truc où quand t'es dans un groupe d'amis où la majorité des filles se sont déjà fait violer ou agresser, tu fais pas ce genre de choses, voilà, tout simplement. Et j'avais beaucoup discuté avec lui, et c'est vraiment de la non-compréhension, quoi. On lui cherche des excuses, oui mais il est triste, oui mais là il est exclu, moi j'ai déjà vécu l'exclusion, c'est horrible de vivre ça. Oui, mais machin, oui, mais...
Le viol, c'est horrible de vivre ça. Hein.
Ouais, et ça, enfin, c'est pas parce qu'il a perdu ses potes qu'en fait, il s'en fout, quoi. Et puis, il pensait que c'était un complot contre lui. Enfin, vraiment, c'est parti très loin, quoi. Mais...
Quand on s'est vu la première fois, justement, t'avais dit la phrase « J'ai connu énormément de violeurs dans ma vie » qui m'avait vraiment frappée. Parce qu'on entend les statistiques, une femme sur dix a été violée. Donc, t'entends aussi qu'un homme sur dix viole. Et moi, souvent, je regarde autour de moi et je me dis « Bon, je suis dans une salle avec 20 personnes. Il y en a deux, en tout cas, qui... » Voilà. Et toi, j'avais l'impression que t'avais comme un aperçu dans les coulisses, en fait, et tu vois, t'es face à la réalité. Quelque chose a fait que t'as vraiment des lunettes particulières et que tu vois ça dans la société, en fait. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant pour faire des liens avec des questions de génération. Parce que récemment, ça me frustre très franchement, en fait. J'ai eu plusieurs fois des gens qui me disent, quand on parle de sujet de sexisme, qui me disent, mais moi je suis persuadée que c'est la future génération le futur. Et moi déjà ça m'agace, parce que je suis là, déjà bien sûr que c'est eux le futur par définition. C'est dit dans plusieurs contextes, souvent c'est des parents qui parlent comme ça de leurs gosses, ou c'est dit aussi de manière sociétale, mais c'est la nouvelle génération qui va changer les choses. Et moi je suis là, déjà il y a quelque chose du dédouanement qui m'énerve là derrière.
On se lave les mains, quoi.
Ouais, des parents qui disent « mes enfants vont changer les choses », c'est que toi, t'as décidé de te laver les mains, tu vas plus faire d'efforts, et par magie, tes enfants qui vont grandir un peu dans un contexte différent, parce que d'autres gens se sont battus, mais pas toi, du coup, bien sûr qu'ils seront exposés à autre chose, ils vont être différents par magie, ils vont solutionner le monde, ça m'agace. Et le deuxième truc qui m'énerve un petit peu, ou qui me frustre, ou je sais pas, en fait, c'est ce truc que la nouvelle génération ne sera pas différente par magie, en fait.
Non.
C'est que si tu l'éduques différemment, elle va être différente. Mais si toi, tu fais rien, elle va pas être différente, en fait. Du coup, comment tu peux dire que c'est ton gosse qui va résoudre les choses si toi, tu changes pas, en fait?
Ouais, ça n'a aucun sens.
Et du coup, je voulais te demander ce que tu en penses, parce qu'en effet, donc, t'as 18 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Déjà, si on parle même pas de crise climatique, on parle juste de MeToo.
Ouais.
Toi, t'avais 12-13 ans quand il y a eu MeToo. Mm-hmm. Donc, bien sûr que ça a un impact.
Bien sûr.
Je vois bien, genre, que votre génération, vous êtes informée et sensibilisée plutôt. Qu'est-ce que ça fait, concrètement? Toi, comment tu vois ça, en fait?
Ben, en fait, ça fait que, du coup, tout le monde est politisé beaucoup plus tôt et a des avis bien ou très problématiques beaucoup plus tôt. Ce qui fait que moi, je sais qu'à 15 ans, moi, j'étais déjà très politisée, très militante, très activiste, et mon groupe d'amis l'était aussi très fort. Mais le truc qui est un peu dangereux, en tout cas, enfin moi, je fais quand même partie d'un milieu, entre guillemets, progressiste, très de gauche, ouais, sur tous les sujets politiques possibles, et du coup forcément très féministe. Ça donne beaucoup de force, en tout cas pour...
Enfin, empouvoirant.
Ouais, empouvoirant.
C'est ça le terme qu'on utilise. je sais pas si ça se dit.
On va dire que ça se dit.
Oui.
C'est très empouvoirant. Et en tout cas pour moi, ça l'a été beaucoup, et pour les femmes qui sont autour de moi, ça l'est beaucoup. Parce que du coup aussi, ça nous laisse avoir des vrais avis, en fait, sur les gens qui nous entourent, et aussi un vrai avis critique de se dire, mais en fait, les adultes, ces gens qui nous disent qu'on doit sauver le monde et sauver la planète, et mais qu'en même temps, on est quand même vachement des petits merdeux, et on n'en sait rien, parce qu'on est trop jeune pour avoir un avis politique.
Mais c'est vous qui allez changer le monde.
Mais on va changer le monde. Mais on est encore trop jeune pour avoir des avis politiques. C'est l'argument phare de « on est trop jeune, du coup on sait rien de la vie, on n'a encore rien vécu, donc ferme ta gueule ». Mais tu vas quand même sauver le monde. Donc, c'est facile de faire le tri, du coup, pour nous. Sur les gens très cons, et sur les gens, ok, on les aime bien. Il y a un truc où ça se fait, du coup, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus instinctivement, j'ai l'impression. Mais c'est aussi un peu trop illusoire, dans le sens que je sais que pour moi, c'est compliqué de me dire qu'il y a des gens qui ont mon âge et qui sont de droite, ou qui sont sexistes, ou qui sont racistes, ou qui sont transphobes. Pour moi, ce n'est pas possible, parce que justement, je suis dans un milieu qui est tellement politisé que du coup, d'en sortir, t'es là un peu genre « Ah, mais en fait, ça va pas du tout !» Parce qu'en fait, les gens d'il y a deux générations, du coup, qui sont nos parents, ceux qui étaient racistes, homophobes, tout ce que tu veux, ils éduquent leurs enfants en tant que parents qui votent à droite.
Ouais.
Et du coup, ça donne des enfants qui ont plutôt tendance à voter à droite et avoir des idées de droite. Du coup, il n'y a rien qui change concrètement. C'est juste que j'ai l'impression que nos avis sont plus radicaux, peut-être. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a un fossé de plus en plus grand qui est en train de se créer entre des jeunes qui sont là, mais en fait, notre génération, c'est vraiment l'enfer sur Terre, avec des propos hyper transphobes, xénophobes, tout ce que tu veux, un espèce de retour aux conservateurs, mais hardcore. Et en même temps, les autres qui sont là, non mais tout le monde a le droit d'être qui il veut, puis on est à fond, puis on va se battre pour nos droits, puis pour le droit de tout le monde et tout. Et du coup, ça crée un fossé quand même énorme. Donc ça, déjà, je sais pas comment on va le gérer, parce que du coup, l'entre-deux n'existe plus. Il n'y a pas de neutre qui existe dans notre génération, j'ai l'impression.
T'es vraiment confronté, donc tu peux pas être neutre.
Ouais. Et t'es confronté tous les jours, que ce soit par les réseaux sociaux, par les mouvements et tout machin, il y a un truc où t'es obligé, en fait. Mais aussi, ce qui laisse place à un truc où, j'ai l'impression, les garçons de notre génération, du coup, se considèrent d'office comme des alliés féministes et comme des alliés de plein de causes, mais qui font aucun taf de déconstruction, de machin, enfin, il y a rien. Parce qu'ils sont dans ce groupe-là, parce que peut-être qu'ils ont grandi avec des parents un peu plus de gauche, avec des avis plutôt chouettes, et que du coup, d'office, ils se sentent mieux dans ce milieu-là, sans avoir fait tout le taf qu'il faut pour être vraiment... faire partie vraiment de ce
la déconstruction personnelle, et s'inclure dans le problème, en fait.
Qui est essentielle et nécessaire, et que toutes mes amies filles font en permanence. Enfin, il n'y a pas un jour où ça ne se fait pas. Alors que les mecs de mon âge, ils sont un peu là, et puis ils se lèvent
douce, les
et puis... non, mais c'est ça. Puis ils sont là, mais oui, mais bien sûr que je suis féministe. Mais au final, ça ne veut plus rien dire, un mec qui est féministe maintenant. Parce que t'es là, bah, tous les mecs de mon âge sont féministes. Mais en même temps, je connais au moins une dizaine de mecs de mon âge dans mon groupe qui ont violé et agressé des gens. On fait quoi avec ça, en fait? Parce que ça laisse place aussi à des imposteurs.
Ouais.
Parce que du coup, c'est quand même mieux vu et un peu plus cool de faire partie des mouvements de gauche et ouverts et machin. Mais c'est quand même un peu chiant de faire de la déconstruction, du coup on va pas le faire. Et du coup, on va être des gros connards et puis on va s'en sortir bien.
Vous avez en fait le même problème que nous. Parce que Coralie et moi, enfin, on en parle tout le temps de ce truc où plein de gens vont dire bien sûr que je suis féministe, puis finalement, en fait, ils font pas le travail de déconstruction personnelle.
Au mieux, ils font pas le travail. Au pire, ils agressent ou ils sont insup.
Vous avez le même problème que
mais
nous.
Mais on a exactement le même problème.
Le truc essentiel, c'est la déconstruction personnelle et de se voir comme partie du problème.
Ouais.
Et tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué. T'avais dit, en fait, la seule différence du coup avec vous, c'est qu'on est hypocrite.
Ouais.
Parce qu'on peut même pas se cacher derrière le je savais pas en fait,
ouais,
parce que
c'est
vous
ça.
Savez, vous êtes informé plus tôt que nous on a été.
Enfin, le truc c'est qu'il y a plus de ça, je sais pas, tu vas sur Instagram 2 minutes, tu t'informes déjà sur plein de causes, enfin il y a un truc où c'est tellement simple, l'information est tellement simple et tellement propagée de partout sur tous les formats possibles et inimaginables, cette excuse n'existe pas, l'ignorance n'existe pas, c'est de la flemme, c'est de la non-volonté, l'ignorance ça n'existe plus.
Tu peux pas plaider ignorance.
Non, et je pense que aussi la deuxième différence qui existe entre nos générations, c'est que du coup nous on a aussi la pression du monde qui est un peu là, mais vous devez sauver l'humanité. C'est vous qui allez sauver la planète, l'humanité, et en fait, ça sera génial quand vous serez aux commandes.
Ouais.
Mais on n'a pas plus d'outils, en fait. On n'a pas plus d'outils, et puis on est juste là, ok, mais en même temps, on se fait pas écouter. Il y a toujours ce truc de « je suis plus âgée, du coup, je sais plus de choses que toi, petite personne de 18 ans, et du coup, je vais te chier à la gueule.
Mm-hmm. »
Ça, ce schéma, il existe toujours et existera sûrement toujours. On se fait pas prendre au sérieux du tout, on est juste des petits jeunes de merde, et on fait chier la société. Et puis voilà, mais en même temps, on doit sauver le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si vous, vous vous y mettez pas, et qu'on attend que nous, on ait un âge, entre guillemets, crédible, pour qu'on ait un peu une toute petite influence sur votre monde à vous, bah on sera déjà tous foutus, quoi. Enfin, il y a un truc où alors on doit attendre que vous creviez tous.
C'est quoi l'y faire ? Ça veut dire quoi, c'est nous qui allons
sauver
le monde ?
Ouais, c'est
en fait.
Ça. C'est vraiment juste, on nous met le problème dessus et on se dit non, mais c'est bon, eux ils vont gérer. Alors que concrètement, enfin, ce sera encore le monde des autres générations jusqu'à que moi j'ai, je sais pas, peut-être 50 ans. Le temps que tout le monde soit à la retraite et meurt, enfin, il y a un truc où...
Et arrête de voter.
Enfin ouais, c'est ça, quoi, il y a un truc... Mais ouais,
surtout,
c'est que ça va pas changer grand-chose, en fait. C'est juste, nous, on a une pression internationale de sauver l'humanité, c'est votre rôle de génération, et puis après, on verra. Moi, je sais que dans mon milieu, il y a beaucoup un mouvement de... Mais en fait, on laisse tomber. En fait, on va pas faire de gosses, on va pas... faire partie de la société. La grande majorité de mes potes n'ont pas du tout le projet de s'investir dans la société, mais plutôt de se marginaliser complètement.
Ouais, okay.
Et de juste, on va s'acheter des terres, je sais pas où, construire une maison et on va y vivre jusqu'à ce qu'on crève, quoi.
Ouais.
En fait, c'est terrible, parce que on a envie de faire des choses, on a envie de se révolter, et on se révolte, sauf qu'on nous écoute pas, et on nous écoutera pas, en fait, jusqu'à ce que nous, on ait les rênes, et en même temps, on n'est qu'une minorité à vouloir faire changer les choses, parce qu'on est né aussi dans une génération hyper confortable, surtout dans les pays occidentaux, et riches, et la plupart des gens ne seront jamais prêts à perdre ce confort, que ce soit social ou matériel, pour changer un peu les choses, du coup, enfin, on sait un peu qu'on est foutus, quoi. C'est pas super joyeux, mais...
C'est un constat pas joyeux et difficile à vivre, donc ça fait un peu que, voilà, tout le monde attend quelque chose de vous sans vous donner aucune possibilité de le faire, et le résultat est aussi que, ben, forcément, il y a plus de problèmes de santé mentale.
C'est plutôt assez aberrant, parce que moi, j'ai très peu de personnes dans mon entourage qui souffrent pas de maladie mentale.
Ouais,
alors que j'ai pas un entourage en particulier, quoi. C'est juste mes amis, des gens qui font des études et des gens qui vivent, en fait, et qui sont touchés par des causes sociales. Et que juste, en fait, c'est impossible, quoi, parce qu'il y a de la peur, surtout en tant que femme. Et j'imagine même pas en tant que femme noire, que femme arabe, ou quoi. Enfin, ça, je peux même pas imaginer la frayeur que ça doit être. Mais déjà, juste en tant que femme blanche, il y a un truc où moi j'ai peur tout le temps, parce que je sais que du coup les violeurs, bah, ils sont, même dans les cadres progressistes de gauche qui se disent féministes, bah, ils sont là. Et c'est pas une histoire politique, en fait, c'est juste une histoire sociale. Et ça a jamais été politique, parce qu'on n'est pas à des sujets politiques. Le meurtre, ça a jamais été politique, donc pourquoi tous les autres crimes ça l'est ? Enfin, il y a un truc où on s'enferme dans des trucs illusoires, où on est là, mais ok, dans les mouvements de gauche, en fait, c'est bon, on est safe. Non, on n'est pas safe du tout.
J'avais vu une fois circuler sur Instagram des comptes féministes qui balançaient en fait des mecs activistes et qui parlaient du phénomène du prédateur activiste, en fait, qui s'infiltre dans des milieux activistes, qui se cache en féministe et qui viole.
Et parce que c'est aussi tellement plus simple comme position. qui va croire que monsieur tout gentil, monsieur hyper activiste, monsieur hyper féministe va violer quelqu'un? Mais n'importe quoi.
Tes victimes, elles ont aucune chance.
Ouais. Ou limite, tu la plains un peu parce que t'es là, ah, mais du coup, il va pas bien. Parce que, en fait, il s'est juste pas rendu compte, quoi. Dans notre génération, à notre âge, tu peux pas ne pas te rendre compte que tu as violé quelqu'un.
Ouais.
Enfin, déjà, dans chacune des générations, je comprends pas comment tu peux pas te rendre compte de ça. C'est quand même assez évident. Quand quelqu'un n'a pas envie de toi, enfin, même s'il n'y a pas de mots, même s'il n'y a pas de gestes violents, ça se voit.
Tu sais que t'es en train d'en avoir rien à foutre de si elle veut ou pas, en fait.
Bah, bien sûr.
Ça, tu le sais, je veux dire.
Ça montre juste que, en fait, on t'a jamais sensibilisé à t'intéresser à ça. Et c'est ça qui est incroyable. Tu vois, tu parlais d'éducation sexuelle. J'ai récemment parlé de ça avec des gens, et puis un ami qui a dit, mais en fait, moi, je sais pas, moi, j'ai entendu à 30 ans le mot consentement. Puis t'es un peu là, mais c'est incroyable quand même, enfin, genre, parce que c'est quand même un peu la base du truc, en fait. Mais c'est juste qu'on va te parler des trucs physiques, comme tu disais, de voilà. Faut mettre une capote et puis enfin genre on va te.
Mais ok,
on
c'est
va...
important, mais ça tu le fais une fois, t'es pas obligé de le répéter 8 fois sur 10 ans. Genre.
Enfin, au pire, si t'as pas bien compris la première fois, après ça. Hein, you figure it out, ouais, quoi, ça vraiment. Va. Mais effectivement, des trucs genre la simple base de la base qui est le consentement, on n'en parle pas.
Moi j'en ai jamais entendu parler à l'école. Quoi.
Voilà, je me demandais si vous, ça avait
jamais,
changé.
Jamais, jamais. Juste quand on était petit, mais on nous parlait avec des images en nous disant oui, bah si il y a un monsieur dans un camion qui vous donne des bonbons, bah là non, ça ok.
Mais t'as l'impression que ça arrive. Plus de toute façon, qui se balade avec un camion avec des bonbons?
Ah, mais quoi que, après,
quoi que, c'est vrai,
quoi que, moi j'ai appris,
quoi que, okay, j'ai rien dit.
C'est les profs, quelques fois. Ouais, les profs, ça va bien. Mais t'es là, ok, tu dis ça à un gosse de 3-4 ans, et puis t'imagines qu'après, en fait, le consentement n'existe plus, et puis enfin, c'est complètement aberrant. Et puis j'ai pas l'impression que notre génération va changer la mise parce que la déconstruction, c'est pas un mouvement social, c'est un truc que tu fais toi.
Mm-hmm. Ouais.
Tu dois prendre l'initiative, toi, de me dire, ok, je vais me déconstruire sur tout, je dis bien ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se contentent de se déconstruire que sur des sujets qui les concernent.
Ouais, féministe mais raciste,
voilà,
féministe mais
transphobe, enfin voilà, ouais. C'est... ou alors gay, sexiste, enfin voilà, ouais. Ça on en a des milliards.
C'est un sujet que j'aime beaucoup.
C'est
les hommes gays sexistes.
C'est un grand sujet, ouais. Et c'est juste une initiative que tu dois prendre toi, et c'est un apprentissage personnel qui diffère de chacun, et c'est pas sociétal, donc c'est pas des gens qui vont être là, et en fait je suis de cette génération, du coup, de filles. Je suis ça. Non, pas du tout.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, malheureusement. Ouais. Et c'est pour ça que ça traîne, ces sujets, et ça prend du temps à changer, parce que le discours change, la conversation change, du coup, on a appris qu'il y a des mots, ça se dit plus, ok. Mais si les gens font pas le travail de se déconstruire, ben on traîne les problèmes, même si les mots ont changé. Tu vois. Puis surtout, un truc aussi, qu'on a l'impression que ça arrive quand même dans l'histoire, c'est que dès qu'il y a une avancée, ben là, on est dans une vague féministe. C'est quand même agréable d'avoir une communauté, d'avoir des amis, tout ça. Mais t'as l'impression que dès qu'il y a une avancée, la plupart des gens le prennent, courent avec pour dire vos gueules, on a avancé, il y a plus de problème, et puis on revient dans un status quo.
Exactement, et puis là, mais pourquoi on devrait se contenter enfin de rien? Un tout petit échelon. Alors qu'on veut l'échelle, quoi. Enfin, il y a un truc où on veut aller plus loin, quoi. C'est genre, c'est tout.
Je crois que c'est assez avéré qu'il y a, à chaque vague d'évolution, il y a toujours des pas en arrière, en fait. Genre, il y a des progrès qui mettent des années et des années et des années à mettre en place et qui sont généralement détruits en peu de temps par la suite. L'avortement, c'est l'exemple typique. C'est, t'as toujours une avancée quelque part. C'est des années et des années et des années de lutte, de mort. Et puis, ça peut être pourri comme ça. En Europe occidentale, ça fait, je sais pas, c'est 10 dernières années, il n'y a pas un pays où il n'y a pas eu une initiative ou un truc où ils disent en fait non pro-vie, ça suffit de tuer des embryons, enfin genre mais chaque année il y a des trucs, puis pas des mouvements, genre c'est pas marginal,
non,
enfin, je veux dire c'est pas trois cathos dans un coin
qui sont fâchés,
c'est genre des milliers de gens qui se disent ah oui mais c'est vrai en fait.
Ah mais vraiment, t'as qu'à prendre le métro à Vienne, vraiment t'as des affiches dans le métro pro-life, mais je te jure, et t'es là genre sympa.
Ça c'est sans parler des pays genre tout près de chez nous, où c'est pas légal en fait. En aucune circonstance, quasi.
Est-ce que t'as eu le soutien de tes amis pendant...
Oui, d'office.
Oui.
Vraiment, d'office. Justement, d'être dans un milieu comme ça, ça fait aussi que ce genre d'histoires sont très bien accueillies et très bien soutenues. C'est-à-dire que j'ai jamais eu aucune personne de mon entourage, que ce soit familial ou que ce soit dans mes amis, qui m'ont fait une seule remarque déplacée. Et ça, c'est une chance incroyable.
Peut-être, j'ose espérer que peut-être c'est ça le progrès dans ta génération.
Oui, je pense bien.
Après, moi, j'en sais rien parce que j'ai pas vécu ce que t'as vécu, mais j'ai l'impression que dans ma génération, il y aurait eu beaucoup plus de remarques problématiques, beaucoup plus de petits trucs, mais toi aussi, t'as fait ça. Peut-être beaucoup plus de femmes autour de moi qui m'auraient pas trop cru ou qui serait resté pote avec le mec. C'est le feeling que j'ai. J'ose espérer que ça, c'est un progrès dans ta génération.
Je suis essentiellement amie avec des femmes maintenant parce que tous mes amis garçons, ils étaient un peu là. Ok, on te tient de ouf, non, ce que tu vis, c'est horrible. Mais dès qu'il y avait un violeur dans l'entourage, c'était mais pas du tout, attends, il est super ce mec. Alors que moi, mon agresseur, ils avaient tous envie de lui péter la gueule. Mais par contre, quand c'était leur pote qui faisait la même chose, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, enfin, les femmes, justement, il y a un truc de soutien, mais immédiat, quoi. Il y a un truc d'empathie immédiate. Et puis on est là, mais oh putain, je suis trop désolée. Je t'aime, t'es trop forte. Avec nos amis, on se dit beaucoup ça, quoi. Et puis ça fait du bien, parce que je sais que je suis soutenue par les femmes en règle générale.
Puis c'est essentiel, en fait.
C'est hyper essentiel.
Mais d'avoir un safe space comme ça, c'est essentiel.
Ou alors c'était des trucs, genre mes amis mecs qui étaient là, ok, on va défoncer ton agresseur, et puis au final, il y a un de leurs potes qui viole, et puis ils sont là. Non, mais il est quand même très sympa.
Non, mais il a dit qu'il est désolé.
Et surtout d'avoir des discours de oui, mais. Il n'y a pas de mais.
Il n'y a pas de mais, en fait, c'est ça.
Il n'y a pas de mais, ça n'existe pas. La violence, ça n'a pas de zone floue, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux où tu es là, je sais pas. Non, ça a été violent, non. Et puis si toi, tu veux l'aider dans une certaine manière, dans son processus de travailler sur le consentement, ok. Mais la plupart des mecs, avec qui ça s'est passé, en tout cas, il n'y a jamais eu un truc de oui, c'est vraiment horrible ce qu'il a fait, c'est vraiment impardonnable. Non, c'était oui, mais tu vois, oui, mais. Elle avait quand même bu. Oui, mais elle s'est droguée. Oui, mais machin. Oui, mais machin. Et puis t'es là, bah non. Du coup, toi, tu cultives la culture du viol. Et du coup, toi, tu dégages. Bah maintenant, moi, je sais que j'ai quasiment... Enfin, j'ai très peu de mecs autour de moi, quoi. Enfin, ça a vraiment fait un tri. Toutes ces histoires de viol qui sont ressorties, ça a fait un tri énorme, quoi.
Moi, j'avoue que même sans des histoires de viol, c'est vrai que j'ai de moins en moins de mecs autour de moi aussi.
Ouais, mais parce que juste, il y a une méfiance.
Ah oui. Et puis, non, puis ils m'humanisent pas. Ils comprennent pas ce que je vis. Ils veulent pas entendre ce que je vis. Dès que je parle de ce qui me préoccupe, ils vont lâcher un truc problématique. Enfin, non, quoi.
Enfin, moi, je sais que pour moi, il y a d'abord une méfiance de est-ce que tu es vraiment sympa ou est-ce que tu es en fait un petit agresseur caché. Et quand je commence à les connaître, bah, tout de suite, il y a des red flags de ils sont juste sexistes et un peu cons, quoi. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la maîtresse et les éduquer, en fait. Enfin, moi, il y a des gens avec qui j'ai été OK, en fait, de faire leur éducation un peu féministe, parce que je voyais qu'il y avait un potentiel derrière, quoi. Tu vois quand il y a un potentiel derrière, quand ils sont là, ah, vraiment, ah merde, je suis désolée, mais du coup, explique-moi. Là, c'est OK, mais quand t'as un mec en face qui est là, genre... Non, mais de toute façon, c'est des conneries, mais de toute façon, c'est bon, vous avez
qu'à déjà choisi que.
Bon, enfin, voilà quoi.
Juliette.
Oui.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire?
Non, je crois pas. On a beaucoup parlé.
Comment c'était pour toi de faire cet épisode?
C'était très bien, ça m'a fait beaucoup de bien.
C'est vrai?
Ça m'a fait du bien de juste en parler et d'avoir des gens en face qui sont là, genre. Oh mon dieu!
Est-ce qu'on était une bonne audience?
Oui, vous êtes une super audience.
Parce qu'on s'est vu aussi deux fois avant d'enregistrer pour préparer. Ouais. Donc
mais ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, comme dans mon milieu, il y a beaucoup d'affaires de viol, il y a un truc où on est là. On comprend, mais du coup, les réactions sont beaucoup moins fortes quand on entend des histoires de viol. Ouais. Parce que du coup, putain, encore.
Encore, ouais.
C'est un peu ça. Vous voyez, que j'ai l'impression que justement, en parlant avec vous et en vous racontant ça, j'ai l'impression que j'ai retrouvé justement ces réactions un peu genre, non mais putain, vraiment.
Ouais,
genre vraiment, il a fait ça, vraiment, il a dit ça, putain, c'est abusé. Et ça, ça fait du bien.
Très cool.
Tant mieux.
Toi, Coralie, c'était comment cet épisode?
C'était très intéressant. Bah, simplement courageux, en fait, de raconter ton histoire parce que, on sait, on parle de traumatisme, on parle de situations très lourdes, de problématiques très intenses et puis que c'est pas facile à en parler et puis de remuer tout ça, quoi, en fait. Donc, on apprécie beaucoup cet effort que tu fais, en fait.
Merci.
Je suis sûre que ça aidera plein de gens aussi. Et toi, Lirza, comment tu l'as vécu?
Déjà, j'étais très touchée que tu nous écrives. Genre, merci pour ta confiance, vraiment, parce que ça me touche que tu viennes, en fait, nous raconter. Moi, c'était assez difficile par moment, parce que j'avais vraiment envie que tu te sentes safe ici, et j'avais peur qu'on pose des questions connes ou
quand... Ça n'a pas été le cas.
Tant mieux. Je voulais que pour toi, ce soit une bonne expérience. C'est ça qui compte avant tout, en fait. C'est pas l'épisode qui compte, c'est pas le résultat. Enfin, c'est... Ouais. Et moi, je suis très ravie que le podcast devienne un peu plus intergénérationnel. Parce que jusque-là, on avait un peu des gens de notre âge. Et donc, il y a toi, 18 ans, puis on a aussi t'invité dans cette saison qui a 56, sauf erreur.
Ah, chouette.
C'est trop chouette, justement, parce qu'elle, elle a justement pas la posture de c'est la future génération qui va changer. Elle s'est laissée changer par la réalité, en fait, qui bouge. Et c'est très intéressant, c'est Nadia. On va enregistrer prochainement avec elle.
Trop bien.
Et voilà. Merci beaucoup.
Merci Juliette. À vous.
Merci.
Vraiment, merci.
Trop cool. C'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe indépendant basé à Lausanne. Si vous appréciez ce qu'on fait et vous désirez nous soutenir, rendez-vous sur le lien patreon.com/lespoissonssansbicyclette. Le lien est également sur Instagram pour voir les différentes options selon lesquelles vous pouvez participer financièrement au projet. Bisous bisous de
Juliette,
Coraline
et Lirza. Bye bye.
Bye. Bye.